Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Bonjour, bienvenue à vous. Nous sommes le dimanche 17 octobre. La matinale week-end commence. CNews Europe 1 avec nos journaux, nos débats, nos rendez-vous. Dans l'heure qui vient, on vous emmènera dans les coulisses de la visite de Jean Castex au Vatican, une première depuis François Fillon. Nous parlerons de la mobilisation des élus de quartiers populaires. 4 ans après l'appel de Grigny, il déborde d'idées pour relancer les banlieues. Et vous découvrirez aussi le château de Berzé en Bourgogne à l'affiche du dernier film de Ridley Scott. Prenez le temps de vous informer avec nous. Bon réveil. Merci d'écouter Europe 1, il est 7h. On est ensemble pour 2 heures d'infos en direct avec Elisa Lukaski. Bonjour Elisa, et pour notre débat après votre journal, on accueille Guillaume Bigot et Yves Deray. Bienvenue à tous les deux.
Bon.
D'abord, les titres de ce dimanche et dans l'actualité toujours. Ce duel à distance entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, les discussions vont bon train d'un camp à l'autre. La candidate du RN tend la main, ses proches jouent les entremetteurs avec Éric Zemmour, mais pour l'heure, le polémiste refuse toute alliance. Pendant ce temps, la cote de popularité d'Emmanuel Macron continue de grimper. Fait rare pour un président en fin de mandat, il obtient 40% d'opinion favorable selon le dernier baromètre mensuel IFOP pour le journal du dimanche. Et puis la mobilisation spectaculaire d'élus de quartiers populaires, 4 ans après le cri d'alarme du maire de Grigny qui dénonçait l'absence de moyens pour sa commune. Vous verrez que ces élus de tous bords proposent des solutions concrètes. On en parlera avec notre invité dans une demi-heure, le maire de Garges-lès-Gonesse. La question politique du moment, les rapports Marine Le Pen, Éric Zemmour entre tension et opération séduction, Elisa.
Oui, après Gilbert Collard vendredi, c'est Robert Ménard hier qui avait invité l'écrivain et polémiste Éric Zemmour. Du côté de Béziers, s'il est encore trop tôt pour parler de rapprochement, la volonté d'apaiser les tensions entre Marine Le Pen et Éric Zemmour est bien présente. Les explications de Sophia Dolé.
Ils s'affichent côte à côte dans les rues de Béziers. Éric Zemmour était l'invité de Robert Ménard hier pour la dédicace de son dernier livre. À cette occasion, le maire de la ville n'a cessé d'appeler de ses voeux l'union entre Marine Le Pen et Éric Zemmour.
Je pense que Marine Le Pen ne gagnera pas sans Éric Zemmour. Aujourd'hui, j'ai pris acte, comme vous, qu'il y avait 2 candidats pour ce courant de pensée et qu'il serait invraisemblable, encore une fois irresponsable, qu'à un moment donné, on n'en tire pas les conséquences et qu'on ne se dise pas, tiens, qui est le mieux placé, pour qui on joue.
Les plus fidèles alliés de Marine Le Pen douteraient-ils des chances de victoire de la candidate Rassemblement National? Vendredi déjà, Gilbert Collard disait vouloir attendre l'évolution de la situation.
Moi, je suis personnellement très méfiant à l'égard de la colique sondagière, du point de vue sanitaire, devient une véritable pandémie. Et donc, j'attends l'évolution de la situation, mais dans la loyauté.
Une possible union dont ne veut pas entendre parler l'écrivain.
L'élection présidentielle ne nécessite pas d'union. Ce n'est pas une alliance de partis. Comprenez la logique de l'élection présidentielle. La logique de l'élection présidentielle, c'est un homme et un peuple.
Pour faire gagner son camp, Robert Ménard a appelé Éric Zemmour et Marine Le Pen à s'unir d'ici au mois de février prochain.
Et pendant ce temps-là, à gauche, la France insoumise se retrouve à Reims aujourd'hui, où Jean-Luc Mélenchon tient sa convention d'union populaire.
Objectif pour le leader du parti et candidat à la prochaine présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, rassurer ses troupes et les mobiliser pour faire campagne. Les explications sur place de notre envoyé spécial Florian Tardif, accompagné de Marion Berchet.
Jean-Luc Mélenchon a rassemblé ses troupes à Reims, un choix qui peut étonner puisque la ville est détenue par la droite, mais un choix qui a été fait en conscience, tout simplement parce que cette ville est le symbole de ce que dénonce le candidat à la présidentielle. Reims, une ville riche, mais dont 24% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Nous fait-on remarquer dans son entourage, comprenez que comme en 2017, les insoumis souhaitent mettre au cœur de cette campagne présidentielle les enjeux sociaux et économiques. Et pour cela, ils comptent s'appuyer sur une machine de guerre militant. Toutes les personnes présentes ici pour assister à ce congrès organisé par la France insoumise se sont vues remettre ce kit militant avec à l'intérieur des fiches explicatives pour leur permettre d'organiser des opérations militantes, de collecter des fonds de collecter même des parrainages. Tout cela dans le but de transformer l'essai de 2017, vous l'avez compris, tenter de se qualifier pour le second tour de la présidentielle, ce qui n'est pas encore gagné puisque Jean-Luc Mélenchon plafonne aujourd'hui autour de 10-11% des intentions de vote au premier tour dans les derniers sondages.
Ne manquez pas à 10h, comme tous les dimanches, le grand rendez-vous, c'est News Europe 1 avec Sonia Mabrouk, l'invité aujourd'hui, Michel Barnier, député La République En Marche de Loire-Atlantique et ancien ministre de l'écologie. La commémoration du massacre du 17 octobre 1961 s'est tenue hier en présence d'Emmanuel Macron dans un contexte diplomatique tendu entre la France et l'Algérie.
Le président de la République qui s'est rendu sur les berges de Seine au niveau du pont de Beson, emprunté il y a 60 ans par des manifestants algériens. Selon l'Élysée, cette nuit-là, une répression brutale, violente et sanglante s'est abattue sur les manifestants protestants contre l'interdiction aux Algériens de sortir de chez eux après 20h30. 12 000 Algériens furent arrêtés, plusieurs dizaines tués. Emmanuel Macron a dénoncé, je cite, « des crimes inexcusables pour la République ».
On revient maintenant sur cette manifestation contre la violence. C'était hier à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.
Dire non à la violence, voilà l'objectif des riverains et des élus qui s'étaient réunis hier à rassemblement à l'appel de la municipalité suite à l'agression au couteau et par une dizaine d'individus d'un adjoint au maire. C'était le week-end dernier. Reportage de Mélodie Stevenson et de Léo Millancourt.
En béquille, affaibli par ses multiples blessures à la tête et aux cuisses, après avoir été agressé au couteau au début du mois par plusieurs individus à Ivry-sur-Seine, l'adjoint au maire Boukhari Gassama a manifesté pour dire non à la violence dans sa ville. Pour l'instant, il a du mal à comprendre les raisons de son agression.
C'est aussi lié aux embrouilles de quartier, donc je pense que c'était plus de l'intimidation envers leurs ennemis, entre guillemets, en se disant on va toucher Boukhari, quelqu'un qui est respecté dans le quartier. Je pense que c'était surtout ça. Je pense pas qu'on m'en veuille à moi directement.
Plus de 250 personnes se sont rassemblées pour protester contre son agression. Devant ses concitoyens et plusieurs élus de villes voisines, le maire d'Ivry-sur-Seine, Philippe Boissou, a fustigé le climat préoccupant dans sa ville d'environ 60 000 habitants.
Cette agression s'inscrit dans la suite d'une spirale de violence qui s'est développée dans notre ville depuis environ un an et demi, auxquels on n'est absolument pas habitué dans cette ville et qui sont des phénomènes totalement nouveaux.
Boukhari Gassama s'est vu prescrire 10 jours d'ITT. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique est en cours.
Du sport, le week-end dernier à Paris, il y avait les 20 km et aujourd'hui c'est le marathon de Paris qui se court, Elisa.
Départ dans 54 minutes hein, pour les coureurs, tenez-vous prêts, les montres sont prêtes, ils sont déjà en train de s'échauffer. Date inhabituelle quand même pour ce marathon de Paris qui d'habitude, je vous le rappelle, se court au printemps. Il a été reporté plusieurs fois hein, en raison de la crise sanitaire. Vous découvrez le parcours que vont emprunter les 30 à 35 000 coureurs qui vont prendre le départ. Ça partira des Champs-Élysées, on se dirige sur l'Est parisien, Bois de Vincennes, on remonte les quais de Seine. On passe par le bois de Boulogne et puis on arrive sur la formidable avenue Foch avec en ligne de mire l'Arc de Triomphe. Ça donne des ailes pour une belle arrivée.
Voilà. Autant dire que si vous avez prévu de circuler en voiture aujourd'hui dans Paris, vous oubliez tout de suite et vous prenez vos baskets et vous courez à côté des marathoniens. Merci beaucoup Elisa, on vous retrouve pour un prochain point complet sur l'info à 7h30. Tout de suite un coup d'œil sur le temps de votre dimanche avec vous Claire Delorme. Bonjour Claire.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
C'est plutôt encore une belle journée qui s'annonce.
Oh oui, et puis même des conditions optimales en tout cas pour aller courir entre soleil et des températures en tout cas convenables, eh bien c'est pas plus mal justement pour les marathoniens. En tout cas pour cet après-midi, les nuages vont quand même progressivement gagner la façade ouest avec quelques gouttes en prime hein, du sud de la Bretagne en direction du littoral aquitain, mais le soleil résiste bien à l'est et donc pour les températures dans l'après-midi, on peut parler de douceur hein, quand même pour un mois d'octobre avec la maximale de 24 degrés à Bordeaux, 18 degrés du côté de Lyon, tout comme pour la capitale, un petit peu plus frais quand même pour le nord-est avec 14 degrés.
Merci beaucoup Claire.
À tout à l'heure.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
7h08 exactement dans la matinale week-end, notre face-à-face ce matin. Guillaume Bigot, politologue, rebonjour à vous.
Rebonjour.
Et Yves Deray, rédacteur en chef de Forbes France.
Bonjour.
À 6 mois de l'élection présidentielle, la cote d'Emmanuel Macron continue de monter. Rarement un président en fin de mandat aura été aussi populaire. On va faire un point avec vous sur les chiffres précis, Emma Guessel. Bonjour Emma.
Bonjour, oui, selon une enquête IFOP pour le JDD, 40% des Français sont satisfaits d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui gagne 2 points dans les sondages. Comparons maintenant avec ses prédécesseurs. À 6 mois de la présidentielle, François Hollande dégringolait dans les sondages. Son action était créditée d'à peine 14% d'opinion positive, très loin des 40% d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Au même moment, 5 ans plus tôt, Nicolas Sarkozy, qui allait être candidat à un second mandat, était déjà donné perdant face à François Hollande. Dans les sondages, il était à 31% d'opinion favorable, soit quasiment 10 points de moins que le chef de l'État aujourd'hui. Enfin, en octobre 2001, 58% des Français étaient satisfaits de l'action de Jacques Chirac, qui allait ensuite être réélu. Pour en revenir à Emmanuel Macron, dans les sondages, le président de la République est systématiquement qualifié pour le second tour et il est en tête au premier tour dans quasiment tous les cas de figure depuis cet été.
Merci beaucoup Emma pour ces précisions. Alors 40% des Français satisfaits, vous me direz que ça fait toujours 60% de Français qui ne sont pas satisfaits. Guillaume Bigot, mais c'est quand même, on l'a vu avec Emma, un bon score par rapport à ses prédécesseurs. Est-ce que ce chiffre vous surprend ?
Non, il ne me surprend pas du tout et je ne dirais pas que c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ce n'est pas tout à fait ça l'histoire. Il faut plutôt regarder la cote de popularité de M. Chirac à 58% par exemple. Il y a la cote de popularité d'un président qui généralement au terme, surtout d'un quinquennat maintenant, arrive un peu
laminé. Un bout de souffle en fin de course.
Ouais. Oui, en bout de course exactement. Et puis la cote d'un président de la République qui est en cohabitation. Or je pense que contrairement aux apparences, le président Macron est en cohabitation. Il cohabite avec le Covid. Le Covid a covidé de sa substance son programme qui était particulièrement populaire. Le programme de réforme, ce qu'on appelle la réforme, c'est-à-dire ajuster la France, adapter la France à la mondialisation, avec notamment réformer les retraites, avec notamment des nouvelles taxes sur l'environnement, etc. Donc tout ça a été gelé d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'est un roi fainéant, pas du tout. Je dis simplement que, exactement comme Jacques Chirac, c'est un président qui n'a pas mis en œuvre son programme à quelques mois d'un présidentiel, donc ça lui est plutôt favorable. Et puis, son électorat est aussi assez âgé, le pass sanitaire, tout ça, il y a un effet très protecteur. Deuxième argument, évidemment, la pandémie lui a permis de faire rigoureusement le contraire de ce pourquoi elle a été élue. En fait, pour dire les choses un peu simplement, il arrose à la méthode keynésienne. Moi, ça me va bien, je suis keynésien. Mais en fait, on redécouvre la roue, on redécouvre quand on réinjecte de l'argent dans l'économie, il y a moins de chômage, il y a plus d'activité, il y a plus d'investissement, ça marche. Le seul petit problème, c'est qu'il se prévaut de cette réussite, de cette politique. Mais c'est exactement le contraire de ce qu'il voulait faire. Le contraire de ce pourquoi il a été élu, c'est-à-dire réduire les dettes, c'est-à-dire serrer les boulons, faire plaisir à l'Union européenne, etc., etc.
Guillaume Bigot, donc vous parlez de cohabitation avec le Covid. Exactement. On pourrait traduire par une bonne gestion de la crise sanitaire. C'est ce que saluent certains Français. Yves Deray, qu'est-ce que vous répondez?
Oui, moi je ne partage pas du tout cette opinion, pardon. Mais c'est vrai que si on compare avec Jacques Chirac, comme François Mitterrand d'ailleurs, ont été des présidents qui ont été réélus après des cohabitations. Si Emmanuel Macron est réélu demain, il sera le premier président de la Ve République à être élu, réélu sur son bilan.
Hein. Et, qu'il soit Covid ou pas,
il n'est pas du tout contraire à son programme. Il n'est pas du tout contraire à son programme. Pas du tout. Vous ne croyez pas du tout en même temps comme beaucoup, c'est-à-dire que vous pensez qu'en fait c'est un président de droite qui a été élu. Or, Emmanuel Macron a toujours voulu marcher sur deux jambes et donc il y avait en effet réduction de la dette, libération. Économie, une politique favorable aux entreprises, mais aussi une politique sociale, et qu'on a vu se déployer, notamment pendant la crise du Covid, parce que je ne pense pas qu'un président de droite, si ça avait été François Fillon, par exemple, qui avait été président pendant la crise, je ne pense pas qu'il aurait mis en œuvre le quoi qu'il en coûte.
Pardon, ça m'étonnerait fort. Guillaume Bigot.
Juste pour qu'il y ait un débat. Ouais. Ça, moi, je suis d'accord avec vous, il y a eu une politique sociale, c'est incontestable, et elle a été plutôt très efficace, d'ailleurs, pour empêcher l'économie française de s'écrouler, mais ce que vous nous dites, c'est que sans le Covid, de toute façon, c'est ce qu'il est prévu de faire.
Non, sans le Covid, évidemment, il aurait fait une autre politique.
Il a bien cohabité avec le Covid,
on est d'accord. Non, pas du tout. Ah bon. C'est de la politique fiction de se dire, s'il n'y avait pas eu le Covid et qu'il avait pu mettre en œuvre une politique telle qu'il l'avait
projetée, les gens auraient été ravis de perdre
il aurait eu un mauvais score aujourd'hui. Ça, on n'en sait rien du
Monsieur
tout.
Peut-être Duray, que sa politique... Là aussi, regardez. Je peux vous répondre, depuis 40 ans...
Je termine juste. Et donc, par ailleurs... Il mène une politique aujourd'hui qui est stratégiquement extrêmement efficace. On voit bien, par exemple, sur quelques exemples, la jeunesse. Il a à chaque fois le couple opération marketing, hein, avec notamment l'opération McFly Carlito dont on se souvient, et puis le pass culture qui favorise les jeunes et qui sont ravis d'avoir 300 euros pour s'acheter des PlayStation. Sur le sport, c'est pareil.
Une place de concert.
Il met un short, opération marketing, il joue au foot.
Oui, ça, c'est sympa. La démagogie.
C'est sympa. Mais en même temps, oui, mais en même temps.
C'est super démago.
Non, pas du tout. Parce que en
McFly
même temps,
Carlito, c'est pas démago.
Non, parce que écoutez ce que je dis. Et après, vous allez comprendre. Après, vous allez comprendre. Prenez des notes. Voilà.
Et donc. De mettre à niveau.
Voilà. D'un côté, il y a l'opération marketing, mais de l'autre, il y a l'opération, effectivement, où il injecte dans les équipements sportifs plus de 300 millions, ce qu'aucun président n'a voulu faire parce qu'il ne s'intéresse pas au sport. Donc, en fait, il incarne une politique. C'est ça, la stratégie. C'est à chaque fois l'opération marketing pour incarner, et puis la politique, la vraie politique. Et ça a l'air de plutôt bien marcher.
Guillaume Bigot, pour conclure.
Je vous réponds, je pense qu'en effet, il est extrêmement habile, il n'y a aucun doute là-dessus. N'oublions pas que c'est l'homme du « en même temps ». Alors, on célèbre le « en même temps » comme une très grande habileté. Le « en même temps », c'est donc dire à Alger qu'on a été les auteurs de crimes contre l'humanité, et c'est ensuite se plaindre contre la rente mémorielle à Alger. Je pense qu'il y a bien... Voilà, ça veut dire, en fait, c'est pas seulement de l'habileté, c'est s'affranchir du principe de non-contradiction. Moi, je suis plutôt pour l'été apprenant. Tout ce que dit M. Macron est parfois frappé au coin du bon sens, l'été apprenant, que les jeunes lisent à nouveau. Mais vous le dites vous-même, il s'agit de relancer la vente des PlayStation, il s'agit de faire venir des YouTubers qui vont faire des petites galipettes dans l'Elysée. Enfin, tout ça n'est pas très... Ça n'élève pas vraiment le débat, mais surtout, il y a cette histoire, je reviens là-dessus...
Ça n'élève pas vraiment le débat, on parle de popularité de Macron.
Je vous donne les recettes de la popularité. Ouais. Les recettes de la popularité consistent à dire une chose et son contraire. Si pour vous, ça élève le débat de dire une chose et son contraire, moi, j'ai un autre argument, c'est qu'il a surtout fait le contraire de ce qu'il avait prévu de faire, c'est-à-dire rembourser la dette, c'est-à-dire avoir un ministre resserré.
Vous l'avez déjà dit.
Ça s'est déployé sur 5 ans.
Vous l'avez déjà dit.
Vous avez dit autre chose, vous avez dit que ça aurait été populaire.
Non, j'ai dit qu'on n'en sait rien. Vous faites, vous, de la politique fiction.
Non, je ne fais pas de la politique fiction. Je regarde ce qui s'est passé au cours des 40 ans.
Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le Covid ?
La classe dirigeante française, depuis 40 ans, a essayé de mettre à l'équerre la France, c'est-à-dire de baisser des déficits, grosso modo, de baisser des salaires, c'est-à-dire grosso modo de baisser les charges sociales pour adapter la France à l'Union européenne et à la mondialisation. Le résultat, c'est toujours plus de précarité, toujours plus de chômage et des gouvernements qui arrivent essorés. Il n'est pas essoré parce qu'il ne l'a pas fait.
Il n'est pas essoré.
C'est très simple.
Yves Deray.
Le en même temps, puisqu'on en parle, hein, et ça revient toujours sur le tapis, et souvent pour s'en moquer, moi j'estime au contraire que c'est quasiment la seule manière de gouverner un pays. Le en même temps. C'est-à-dire qu'un président qui serait...
Le mensonge et la contradiction.
Non, un président qui serait tout social, très à gauche, et qui négligerait l'économie de marché et qui ne soutiendrait pas les entreprises, n'aurait aucune chance de réussir. De la même manière qu'un président ultra-libéral qui, pour le coup, négligerait les gens qui sont sur le bas-côté, qui n'ont pas la capacité ou les moyens de profiter de la mondialisation, etc., n'aurait non plus aucune chance de réussir. La seule manière de gouverner à la France, c'est effectivement de faire du « en même temps », c'est-à-dire d'être à la fois libéral pour soutenir l'économie et l'entreprise, et social pour soutenir les gens qui ne peuvent pas prendre ce train-là. Et voilà ce que fait Macron, et c'est pour ça que ça fonctionne. Centre de l'échiquier politique, et aujourd'hui, il rejette à la marge les uns et les autres, à droite comme à gauche.
Et Guillaume Bigot, est-ce que finalement, il ne parle pas à ces Français modérés
Modeste ou modéré, c'est
pas... Modeste et modéré, peut-être. Et ce sera le mot de la fin, Guillaume Bigot.
Bah, écoutez, je crois surtout que ce en même temps est une posture qui est assez pratique, parce qu'il y a aussi un autre en même temps. C'est qu'en même temps, il est chef de l'État en exercice, et en même temps, il est candidat. Donc il utilise sa position de chef de l'État en exercice pour faire campagne. On l'a vu à Marseille, on le voit depuis maintenant de manière discontinue, depuis 6 mois. C'est de bonne guerre. Tous les présidents de la République font ça.
D'accord,
mais simplement, à partir du moment où il descendra dans l'arène politique, il retirera sa cape.
Vous n'avez pas l'impression qu'il est déjà un peu dans l'arène politique, là, non ?
Si, mais il ne le fait pas en tant que candidat.
Yves Deray, Guillaume Bigot, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle, Yves Deray, que vous êtes rédacteur en chef de Forbes France, et Guillaume Bigot, politologue. Guillaume, on vous retrouvera pour le débat à 8h. Merci
avec
beaucoup
plaisir.
À tous les deux. Dans un instant, une parenthèse avec Vanessa Zah qui nous emmène dans le sud de la Bourgogne. Vous y découvrirez le château de Berzé, là où a été tourné le dernier duel, le tout nouveau film de Ridley Scott. À tout de suite.
La matinale week-end, CNews, Europe 1, Isabelle Moreau.
7h25 dans la matinale week-end, merci d'être avec nous. Vanessa Zaza, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous nous faites découvrir ce matin une pépite de Bourgogne, le château de Berzet, qui est la star du dernier film de Ridley Scott avec Matt Damon et Ben Affleck, Le Dernier Duel.
Exactement. Alors, petit rembobinage historique, on est en 1386. Jean II Carouge réclame au roi Charles VI un duel à mort pour laver l'honneur de sa femme qui s'appelle Marguerite de Thibouville. Elle accuse Jacques Le Gris, écuyer, favori du duc d'Alençon, de l'avoir violé. Ça va être le point de départ. Ce sera le dernier duel judiciaire autorisé en fait en France. Et donc, pour planter le décor, Ridley Scott a décidé de tourner ça dans le Mâconnais, donc en Bourgogne, en Sud-Bourgogne, au château de Berzet-le-Châtel. Alors pourquoi? Parce que c'est un des châteaux les mieux conservés de la région. C'est surtout le plus imposant. Trois enceintes, 14 tours, une forteresse qui a été érigée entre le 10e et 13e siècle, autour d'une chapelle carolingienne et puis d'un immense puits de 40 mètres de fond qui a été creusé dans la roche. Et avec des terrasses, des vergers, un potager et puis des jardins à la française aussi.
C'est pas un peu bizarre ça, des jardins à la française dans une forteresse médiévale? C'est anachronique, non?
Totalement anachronique, vous avez raison. Mais en fait, il y a une raison, il y a une symbolique très forte même. C'est un hommage à une époque où le château a été complètement donc fermé entre le 17e et 19e siècle. C'est une métaphore militaire. Le jardin, en fait, a une forme d'échiquier. Les ifs sont taillés en forme de pions. Et ces pions représentent les sentinelles qui étaient postées le long des remparts pour surveiller évidemment donc, la vallée. Mais grâce en fait, à ce jardin à la française, le château a pu avoir le label des jardins remarquables. Et puis alors, j'ai encore un autre argument pour vous emmener au château. Il est situé sur la route des châteaux. Il fait partie des 17 forteresses médiévales.
Alors, c'est une bonne idée pour les vacances, par exemple, les vacances de la Toussaint, ouais. Vanessa. Cette route médiévale, je crois que vous avez une autre route à nous suggérer. Elle est un petit peu plus romantique, celle-ci.
Oui, on est loin des glaives. C'est la route, en fait, Lamartine. Parce que le château de Berzet domine le Val Lamartinien. Vous êtes dans le berceau du poète Alphonse de Lamartine. Il est né à Mâcon. Et c'est vraiment en Saône-et-Loire qu'il a commencé à façonner son esprit poétique, mais aussi son élan politique. Alors, si vous voulez partir sur ses traces, il y a plusieurs spots. Il y a sa maison d'enfance, évidemment, à Milly. François Mitterrand adorait s'y promener. Il y est venu plus d'une vingtaine de fois. Il y a son château de Saint-Point, qui est sa demeure familiale. Alors, il venait vraiment pour y écrire. Aujourd'hui, c'est une maison qui est classée Maison des Illustres, une maison d'écrivains. Alors, on va la visiter. Rien de grandiose, mais on touche quand même du bout des doigts l'intimité en fait de Lamartine, surtout dans son cabinet de travail.
Alors, hormis ces maisons, d'autres lieux l'ont inspiré?
Alors oui. Et pas que lui, d'ailleurs, hein, François Mitterrand. Les roches de Solutré, évidemment, et de Vergisson. Lamartine disait que c'était deux étraves de navires pétrifiés qui émergeaient d'une mer de vignes. Et en fait, elles forment avec une autre roche, celle de Montpouilly, un grand site de France que vous pouvez explorer comme vous voulez sur des randonnées de 14 km, pas plus. Donc, c'est assez accessible. Et puis, un dernier lieu, le château de Pierre Clos, qui l'a inspiré donc, pour son poème Jocelyn et qui est devenu un domaine viticole.
Ah oui, on est en Bourgogne, je me demandais quand même.
Oui, vous attendiez ça, hein, les vignes. on aurait été hors sujet.
Merci beaucoup, Vanessa, pour cette belle découverte du château de Berzet qu'on peut voir donc à l'affiche du Dernier Duel, le film de Ridley Scott. Il est 7h30, on va passer aux principaux titres de l'actualité tout de suite.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Elisa Lukavski pour le point complet de l'info à 7h30. Et d'abord ce reportage sur les nouvelles routes empruntées par les migrants qui tentent souvent, au péril de leur vie, de rejoindre la France.
Oui, on l'a vu en début de semaine avec ce drame. Hein, c'est trois migrants fauchés par un train du côté de Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, à proximité de la frontière franco-espagnole. La pression policière, elle est très forte et chaque jour là-bas, eh bien, des dizaines de migrants tentent de rallier la France par tous les moyens. Reportage d'Antoine Estève.
Quand le train espagnol entre en gare d'Hendaye, les gendarmes contrôlent les passagers.
On ne peut pas prouver qu'il y a un côté raciste, mais bon, on arrête plus facilement ceux qui sont un peu bronzés, quoi.
Aïn Sané milite dans une association d'aide aux migrants. Dans ce quartier, ceux qui viennent de passer la frontière cherchent le plus souvent un moyen d'aller à Calais pour passer en Angleterre. Et ici, ils arrivent sur une terre moins hostile qu'à la frontière italienne.
Le Pays Basque est l'instance de la communauté et de l'aide de l'autre. Je ne dis pas tout le monde, mais on conçoit que ces personnes puissent passer et puissent vouloir rester. Et on a connu ça.
Ceux qui vivent à côté des ponts, très surveillés entre l'Espagne et la France, croisent des migrants tous les jours. Entre Irun et Béra, ils sont des dizaines à tenter leur chance sur des sentiers très escarpés.
Parfois, les chemins empruntés par les clandestins sont beaucoup plus discrets et beaucoup plus dangereux. Je viens de passer la nationale espagnole qui se trouve juste derrière moi. Je vais grimper quelques centaines de mètres sur cette colline. Et de l'autre côté, c'est la France.
Les migrants venus d'Afrique de l'Ouest, du Sahel ou du Soudan doivent ensuite rejoindre une route ou une voie de chemin de fer. Laurent Saïssé est policier et délégué à Alliance.
Les migrants prennent tous les risques pour pouvoir passer. Là, nous sommes débordés, nous sommes en sous-effectif. Nous n'avons que deux patrouilles pour assurer le quotidien et la gestion du flux migratoire.
Au Pays Basque, les polices françaises et espagnoles estiment que 17 000 migrants sont passés par ces routes de l'Exode depuis le début de l'année.
La politique à 6 mois de la présidentielle, le Parti socialiste lancera officiellement sa campagne samedi prochain à Lille, Elisa.
Avec une convention d'investiture qui sera purement symbolique, puisque c'est Anne Hidalgo qui a été choisie par son parti jeudi dernier. Créditée de 4 à 7% des intentions de vote dans les sondages, sa candidature a peine à décoller. Avant ce rendez-vous lillois, les militants préparent le terrain. Reportage sur place de Boris Nicolas avec Sophia Dolé.
À Lille, les jeunes militants du Parti socialiste sillonnent les rues. Tracteur rose à la main. Margot Rouchet, militante du parti, espère rassembler autour de sa candidate.
Je pense vraiment que Anne Hidalgo, c'est celle qui incarne le mieux aujourd'hui la volonté de faire la transition écologique dans la justice sociale. Ça, c'est les deux bouts de notre programme. Je pense que c'est ce qui nous distingue d'autres offres politiques.
La candidature d'Anne Hidalgo plafonne autour de 5% des intentions de vote. Les militants espèrent relancer sa campagne, mais les électeurs rencontrés dans la rue sont moins enthousiastes.
Elle devrait plus s'occuper de Paris. Elle a déjà beaucoup à faire.
J'espère qu'elle va pouvoir rassembler la gauche ou faire partie d'un rassemblement.
Moi, personnellement, pas choisi Hidalgo, mais en même temps, je ne sais pas qui j'aurais choisi non plus.
Selon Rémi Boussemard, responsable des jeunes socialistes du département du Nord, les actions vont se multiplier. La première, l'investiture officielle samedi prochain.
C'est un moment fort où il y aura des centaines de militants, naturellement du Nord, de Lille, mais aussi de toute la France, aussi des gens qui, peut-être curieux, s'intéressent à la candidature d'Anne Hidalgo et pourront venir pour assister à cette présentation où il y aura les grandes lignes de sa candidature qui vont être tracées.
Les cadres actuels ou passés du Parti socialiste seront présents, comme Martine Aubry ou encore Lionel Jospin.
Et notez votre rendez-vous à 8h40 avec Jean-Pierre Elkabbach. Il reçoit ce matin François de Rugy, l'ancien ministre de l'écologie et député de Loire-Atlantique, vient de publier Du pouvoir des homards, mais surtout de l'écologie chez Plomb.
Dans l'affaire du meurtre d'une femme décapitée à Hague de mercredi, le principal suspect a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire hier. Ce sont les images de vidéosurveillance et les nombreuses traces ADN qui ont confondu le suspect. L'homme âgé de 51 ans, un ancien boxeur, un temps candidat Front National dans le Nord, était l'ancien mari de la femme de ménage.
Direction Marseille à présent, où des artistes afghans en exil tentent de se reconstruire petit à petit.
Il y a 2 ans, la cité phocéenne consacrait une exposition aux artistes contemporains d'Afghanistan. Aujourd'hui, certains d'entre eux y ont trouvé refuge et veulent continuer à créer malgré la nostalgie de leur pays natal. Inès Ali Khan.
Ce photographe afghan explore sa nouvelle terre d'accueil. Nasser Turkmani fait partie de la dizaine d'artistes afghans évacués en France depuis la prise du pouvoir par les talibans fin août. Il espère que d'autres afghans aient les mêmes opportunités que lui.
J'espère que beaucoup d'Afghans comme moi quitteront l'Afghanistan, qu'ils travailleront dur, essayeront de faire des études et qu'ils retourneront en Afghanistan sains et saufs. En ayant plus d'expérience, ils aideront notre pays et nos compatriotes.
Comme Nasser, ce couple d'artistes afghans a dû fuir leur pays. Un jour, Kaboul. Fatema, elle, était marionnettiste.
Mes marionnettes sont restées là-bas. Moi, j'ai pris mes affaires indispensables et j'ai regardé mes marionnettes et j'ai pleuré. À part quelques vêtements, je n'ai rien pu prendre avec moi.
À Marseille, le Musée des civilisations, de l'Europe et de la Méditerranée a ouvert ses portes à ses exilés afghans et espère exfiltrer d'autres artistes menacés.
Du sport, du football, bien sûr, la victoire de Lyon face à Monaco en Ligue 1.
Exactement, la 10e journée qui s'est poursuivie hier et un succès qui a mis du temps à se dessiner pour les Lyonnais. C'est sur pénalty que Lyon ouvre son compteur grâce à Karl Toko Ekambi à la 75e minute. Lyon qui va s'offrir un deuxième but en toute fin de match grâce à l'international belge Jason Denayer. Victoire 2-0 qui permet aux Lyonnais de remonter à la 5e place du classement. Et puis un autre match hier et à domicile, c'est Clermont qui a surpris Lille en s'imposant sur le plus petit des scores, 1-0. Joli but avec une frappe rate-terre signée de l'international congolais Vital Nsimba. Le promu Clermont qui s'impose face au champion de France en titre et qui prend la 11e place du classement. Lille est 9e.
Et puis un petit programme pour les antennes de cet après-midi.
Voilà, on va vous vanter quand même le match à suivre cet après-midi sur Canal Plus Sport. Il s'agira de Montpellier qui affronte le dauphin du PSG Lens. C'est à 17h.
Merci beaucoup Elisa. Prochain rendez-vous complet avec l'actualité à 8h. Souvenez-vous, c'était il y a 4 ans, l'appel de Grigny des maires de villes de banlieue, de tous bords politiques, lançait un cri d'alarme à destination du gouvernement. Il dénonçait les coupes budgétaires et le sentiment d'abandon de ces communes, pour certaines parmi les plus pauvres de France. 4 ans plus tard, où en est la politique de la ville? Que reste-t-il de cet appel en faveur de ces territoires? On en parle avec un des maires mobilisés, Benoît Jiménez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire UDI de Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise. Vous êtes aussi co-animateur du Conseil national des solutions lancé hier. Dites-nous ce qui est ressorti de ce Conseil national et à quoi il sert.
Vous avez raison, hier étaient réunis à l'accord Arena de Bercy plus de 75 communes pour faire comme un bilan de ces 4 ans de l'appel de Grigny. Et hier donc avait lieu le Conseil national des solutions par le sport précisément. Et au travers de cette journée, on a pu faire remonter des choses très simples. C'est que des territoires de nos villes populaires s'organisent un certain nombre de dispositifs dont si on avait davantage de moyens, on pourrait les déployer à une échelle beaucoup plus grande. Un exemple peut-être très concret sur ma commune de Garges-lès-Gonesse, alors que nous sommes entre le premier aéroport privé de France et le premier aéroport public d'Europe, qui est aussi Charles de Gaulle, et le Bourget de l'autre côté. Eh bien, les populations de ma ville, de la ville de Sarcelles, de la ville de Stain, de la ville de Gonesse, ne bénéficient pas assez des emplois qui sont sur ces bassins d'emploi. Et pour cela, nous montons le mois prochain une école d'inclusion par le sport qui permettra de raccrocher les jeunes via les jobs qui existent sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qui vient de notre ville, mais des écoles d'inclusion par le sport qu'on monte avec l'appel. Il faut les déployer partout en France.
Benoît Jiménez, le constat que vous faites finalement, c'est que tout ce qui vient d'en haut ne fonctionne pas, ce qui vient de l'État ou du gouvernement, et que ce qui marche, ce sont les idées remontées du terrain.
Alors il faut nuancer, c'est pas vraiment, on demande simplement d'être le plus sollicité, le plus consulté possible, parce qu'on a effectivement, nous, cette petite prétention avec les acteurs de terrain, avec les associations, avec les clubs sportifs, avec tout l'écosystème de l'emploi sur le terrain, on a effectivement cette petite prétention de dire écoutez-nous, parce que de nos territoires existe un certain nombre de sujets qu'on pourrait porter. Donc faites-nous confiance, nous qui sommes tous les jours sur le terrain, pour porter les idées et les solutions. Et ces solutions-là, on est certain, on en est convaincu qu'elles peuvent être déployées à l'échelle du pays.
Vous avez le sentiment que les quartiers populaires, comme on les appelle, seront encore les grands oubliés de la campagne qui s'annonce pour la présidentielle?
Bien, on lance effectivement un appel à toutes celles, à tous ceux qui souhaitent jouer un rôle pendant cette élection présidentielle, de faire en sorte effectivement que les quartiers populaires ne soient pas les grands oubliés. Nous, on n'est pas des maires misérabilistes ou dans la victimisation. Au contraire, on dit qu'il existe, même au niveau national, un certain nombre de dispositifs, mais qu'il faut raccrocher avec les bons tuyaux pour qu'ils arrivent jusqu'à nos quartiers populaires. Vous voyez, on est dans un message positif. On croit beaucoup au potentiel qui existe dans nos quartiers. Pour ça, il faut les mettre en lumière, il faut les valoriser. Et le grand mouvement de maires transpartisans qui a eu lieu hier, il est vraiment dans cet état d'esprit-là, positif, ouvert, combatif. Et ça, on va le porter et on fera en sorte effectivement que les villes populaires ne soient pas les grands oubliés de cette élection présidentielle.
Comment expliquez-vous que des élus de tous bords politiques, hein, ça va des communistes au centre en passant par la droite, comment tous ces élus arrivent à s'entendre sur des solutions communes avec des financements communs?
Mais parce que nous sommes des maires du réel, des maires du pragmatisme, parce que les solutions qu'on déploie, d'abord, ça nous fait énormément de bien de nous retrouver et qu'on soit, et vous l'avez bien dit, il y avait des maires hier communistes, écologistes, des maires de gauche, des maires de droite, des maires LR, des maires UDI, il y avait des maires de toutes les tendances politiques et finalement, on vit dans nos villes populaires un certain nombre de choses qui sont très semblables et on a besoin aussi, nous, de voir comment ça se passe ailleurs et les solutions qu'on déploie sur les territoires, elles sont parfois les mêmes pour réussir à faire en sorte qu'on ait moins de chômage dans nos quartiers, qu'on ait plus de sécurité dans nos quartiers, qu'on ait finalement qu'on travaille autour de tous ces écosystèmes qui vont faire en sorte que nos populations puissent être tirées vers le haut. Et ça, finalement, on le partage, qu'on soit des maires de gauche, des maires de droite ou des maires du centre, on le partage tous ensemble.
Un dernier mot, cette inclusion par le sport avec cette première école que vous allez lancer, c'est un moyen de canaliser la violence, de redonner de la sécurité aux habitants de ces quartiers ?
Oui, et puis surtout, ça permet, comme je vous le disais, d'être la ville qui est la mienne, celle de Garges-lès-Gonesse, au milieu, au cœur de deux bassins d'emploi importants, de pouvoir raccrocher le plus possible de nos populations vers les jobs qui existent sur le territoire. Il y en a, il y a du travail, et c'est malheureux que nos populations ne puissent pas en bénéficier. Donc, via la pédagogie du sport, je suis convaincu qu'on pourra raccrocher le maximum de jeunes. Ça va être plusieurs centaines l'année prochaine. On va former des éducateurs de nos clubs sportifs pour accompagner ces jeunes. Et ces écoles-là, il faut les déployer partout parce que c'est rentable en plus pour le pays.
Merci
malheureusement,
beaucoup.
Ce qu'on pourrait imaginer, merci. C'est rentable pour le pays
on
parce qu'on investit.
Votre enthousiasme, Benoît Jiménez. Merci, maire UDI de Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise. À suivre votre chronique cinéma avec Laurie Choleva. Plein de films à découvrir avec vos enfants. Il y a de vraies pépites.
Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Place au cinéma dans la matinale week-end avec Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Isabelle.
Du grand écran pour nos petits-enfants et même les plus grands d'ailleurs.
Exactement, pour la famille. Il y a pas mal de sorties en ce moment familiales. Alors il y a eu le film d'animation La famille Adams 2 ou encore Sam le pompier, très populaire chez les tout-petits. Et moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Le loup et le lion de Gilles de Maistre. Alors c'est pas un dessin animé, c'est comme toujours avec Gilles de Maistre, un film avec des images très réalistes, spectaculaires, en pleine nature, car c'est vraiment son ADN, c'est son engagement pour préserver l'environnement, la planète et la nature. Alors, donc, c'est un film réalisé sans trucage, il faut le savoir. Donc, l'amitié existe vraiment. Et c'est donc une amitié entre deux animaux sauvages qui, a priori, tout oppose. Hein, ils n'ont rien à faire ensemble, mais ils deviennent très, très amis.
Nos condoléances pour votre grand-père.
J'avais plus que lui.
Ton grand-père ne faisait jamais rien comme tout le monde.
Je me suis fait une nouvelle copine. C'est une louve. Elle vient souvent me voir.
N'aie pas peur. T'as eu un bébé ?
Joe, tu vas jamais le croire. Viens voir. Il y a un louveteau, un lionceau et...
Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est une copine de grand-père.
Quoi ?
Ils sont inséparables. La louve est pas revenue. Je vais devoir m'occuper d'eux.
Il n'y a vraiment pas de trucage, ils s'entendent aussi bien.
Oui, exactement. En fait, Gilles de Maistre, c'est vraiment ce qu'il aime faire. Il l'avait fait pour Mia et le lion blanc. Il avait fait connecter la petite fille avec le lion dès son plus jeune âge. Là, il a fait pareil. En fait, ils ont été élevés ensemble. Donc, ce sont des tournages qui prennent peut-être 3 ou 4 ans, en fait.
Et c'est une vraie amitié qu'on
voit. C'est une vraie amitié. Et aujourd'hui, ils sont élevés dans la même réserve pour justement ne pas avoir à les séparer. Donc, c'est vraiment un film très mignon avec plusieurs degrés de lecture, puisque voilà, si deux ennemis peuvent être amis, tout le monde peut l'être.
Donc Le loup et le lion, c'est en ce moment au cinéma, mais la semaine prochaine, il y a aussi Le petit Nicolas qui sort.
Et oui, nouvelle adaptation de la célèbre bande dessinée de Goscinny et Sampé, Les trésors du petit Nicolas, réalisée cette fois par Julien Rapneau avec Audrey Lamy et Jean-Paul Rouve. Alors un mot sur l'histoire, le petit Nicolas apprend que son père va être muté à Aubagne, évidemment il n'a pas du tout envie, donc avec ses amis, ils vont essayer de tout faire capoter.
Moi, c'est Nicolas, j'ai les meilleurs copains du monde. Papa est rentré du travail avec une nouvelle terrible.
Il se prend pour qui, le voisin ?
Il a eu une promotion. Directeur.
Oui, tout ça va nous demander un peu d'organisation.
Un peu d'organisation ?
Oui, le déménagement.
Tu partiras pas. On va tous faire la grève de la faim.
Pas la grève de la faim.
Alors, avec les copains, on a décidé de tout faire pour empêcher ce déménagement. Je compte trouver un trésor.
Bah, c'est toujours très efficace en fait, c'est tendre et drôle.
Un clin d'œil pour les tout-petits cette fois.
Je suis obligée d'en parler Isabelle, sinon ma fille de 2 ans et demi va me tuer. C'est un film d'animation qui s'appelle Zébulon le dragon et les médecins volants. C'est l'adaptation d'une célèbre bande dessinée pour les tout-tout-petits. Donc c'est les aventures de ce dragon maladroit qui part soigner les animaux accompagné donc, de la princesse Perle et de Tagada. Vous allez voir, c'est très mignon.
Le roi, mon oncle, risque de mourir. Vous devez aller chercher le remède. Il faut faire vite, c'est urgent.
Une pépite pour tous les Zébulons. Merci voilà. Beaucoup Laurie pour vos beaux conseils pour nos enfants et pour les amateurs de cinéma tout court. C'était votre chronique dans la matinale week-end.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
7h50, Jacques Sauré nous a rejoint dans la matinale week-end. Bonjour à vous.
Bonjour,
journaliste Isabelle. Au service politique Europe 1. Jean Castex se rend au Vatican en Italie demain. Jacques, vous allez nous dévoiler les coulisses de cette visite. C'est assez rare hein, qu'un Premier ministre rende visite à un souverain pontife.
Oui, la dernière fois qu'un locataire de Matignon s'est rendu au Vatican dans le cadre d'une visite officielle, eh bien, c'était François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy. C'était en octobre 2009, il y a 12 ans, une éternité en politique. Jorge Mario Bergoglio n'était pas encore le pape François, mais un simple cardinal argentin. Et le chef suprême de la chrétienté s'appelait Benoît XVI. À l'époque, François Fillon et son épouse Pénélope avaient ensuite assisté le lendemain de leur rencontre avec le pape à la messe de canonisation de la française Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres.
Jacques, est-ce que Jean Castex a lui aussi prévu d'assister à une messe ?
Non, ce n'est pas au programme. Mais comme François Fillon, il y a 12 ans, Jean Castex viendra lui aussi accompagné de son épouse Sandra et d'une petite délégation d'une quinzaine de personnes, dont le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le ministre de l'Intérieur chargé des cultes, Gérald Darmanin. Alors pour le Premier ministre, pas de messe, mais une visite de la chapelle Sixtine et de la basilique Saint-Pierre. Juste avant, Jean Castex aura un moment privilégié avec sa sainteté le pape, une audience privée, sans caméra ni micro pour 30 minutes de tête-à-tête.
Alors là, on entre dans ce qui relève de la tradition. Quand un président ou un chef de gouvernement rend visite au pape, il apporte au moins un cadeau. Est-ce que vous avez pu être mis dans la confidence ?
Alors Matignon ne veut strictement rien dire. Ne pas dévoiler en avance les présents qui seront offerts au pape, ça peut se comprendre par politesse. Jean Castex veut que ce soit une surprise. Mais puisque je ne suis pas certain que le pape François nous écoute ce matin,
a priori, il y a peu de chance.
Je vais vous dévoiler ce que le Premier ministre a préparé dans ses bagages pour Rome. J'en ai eu la confirmation. Demain, Jean Castex offrira au pape un exemplaire de la première édition de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
Et ça, c'est plutôt classique, ça.
Voilà, et c'est un peu plus surprenant. Un maillot du Paris Saint-Germain dédicacé, devinez par qui ?
Je crois que j'ai une petite idée. S'appellerait-il Messi par hasard ?
Voilà, évidemment, l'Argentin, comme le pape Lionel Messi, maillot du PSG floqué du numéro 30. Jean Castex avait rencontré le dieu du football, Lionel Messi, le 19 septembre dernier au Parc des Princes après le match PSG-Lyon.
Non, il est sûr de faire un cadeau qui va plaire au pape. On connaît l'amour du pape François pour le football et pour l'Argentine, évidemment. Quelle est la raison de cette visite de Jean Castex ?
Eh bien, la raison officielle, c'est un anniversaire. 2021, c'est l'année du centenaire de la reprise des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, car pendant 17 ans, entre 1904 et 1921, ces relations ont été inexistantes. Petit rappel, 1904, c'était la mise en place des lois laïques, avec notamment l'interdiction de l'enseignement aux congrégations, suivie en 1905 par la loi de séparation des églises et de l'État.
Une question que tout le monde se pose, évidemment, est-ce que les deux hommes vont parler des abus sexuels dans l'Église ?
Oui, après la déflagration du 5 octobre dernier, avec la remise du rapport Sauvé, ce sujet sera inévitablement abordé. 216 000 victimes mineures de clercs et de religieux depuis 1950, c'est l'estimation de ce rapport. Le pape François en a évidemment pris connaissance dès le lendemain de sa publication. Il avait fait part de son immense chagrin, attristé par, je cite, ce nombre considérable. C'est le moment de la honte, avait-il réagi. Le sujet ne sera pas éludé lors de cette rencontre, mais selon nos informations, Jean Castex devrait se contenter de dire au pape que son gouvernement va suivre de très près ce que les évêques français vont mettre en place pour lutter contre ce fléau de la pédocriminalité.
Et est-ce qu'il y a dans cette visite et cette rencontre entre le Premier ministre et le pape un enjeu politique ?
Sans aucun doute, Isabelle. Et avant même les mots, demain, sur tous les écrans, il y aura l'image du Premier ministre d'Emmanuel Macron au Vatican, aux côtés du pape. C'est loin d'être neutre à l'approche de la présidentielle, quand on sait le poids de l'électorat catholique en France. D'ailleurs, en temps normal, c'est extrêmement rare que le souverain pontife reçoive un responsable politique si peu de temps avant une élection majeure dans son pays. C'est pour cette raison qu'initialement, cette visite était programmée bien avant, en mai dernier. Mais il y a 5 mois, ce n'était pas possible avec le contexte sanitaire.
Alors, juste pour terminer, est-ce qu'on sait si Jean Castex va inviter le pape à venir en France ?
Alors Emmanuel Macron avait déjà lancé l'invitation auprès du souverain pontife à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais oui, je vous le confirme, Jean Castex va renouveler cette invitation au nom de la France. Peu de doute sur le fait que le pape François n'y réponde pas maintenant, histoire de s'éviter, de s'immiscer davantage dans la campagne présidentielle.
Voilà pour les coulisses de cette visite de Jean Castex auprès du pape François. Donc ce sera demain dans les coulisses du Vatican. Et merci de nous avoir donné ces quelques informations, notamment sur les cadeaux Notre-Dame de Victor Hugo. mais surtout ce qu'on retiendra ce matin, c'est évidemment ce maillot du Paris Saint-Germain dédicacé par Lionel Messi, un cadeau qui ne manquera pas de plaire au souverain pontife. C'était la chronique politique de Jacques Serret. Merci beaucoup Jacques.
Merci,
du service politique d'Europe 1. Vous restez avec nous dans la matinale week-end avec dans un instant le journal de 8h, notre débat avec la préoccupation majeure des Français à 6 mois de la présidentielle, c'est évidemment le pouvoir d'achat. C'est la question centrale pour beaucoup d'entre vous, un enjeu déterminant pour les candidats. Et puis on s'intéressera aussi à ce numéro unique d'appel pour les urgences, le 112. Ça fait toujours débat, mais Emmanuel Macron a annoncé hier l'expérimentation de cette plateforme centrale qui existe déjà chez nos voisins européens. A tout de suite.
Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end CNews Europe 1 avec toute l'info, nos débats très politiques et nos rendez-vous. Dans nos rendez-vous, il sera notamment question de musique. Vous n'imaginez pas à quel point c'est bon pour votre santé. Le docteur Brigitte Millot nous en dira plus. On écoutera aussi les Beatles avec Mathieu Alterman parce que vous verrez que 2021, c'est aussi l'année des Beatles. Et puis ne manquez pas bien sûr à 8h40 votre rendez-vous comme tous les week-ends avec Jean-Pierre Elkabbach. Il reçoit ce matin, l'ancien ministre de l'écologie qui se lâche dans un dernier livre, l'ancien ministre de l'écologie, François de Rugy. Merci d'écouter Europe 1, il est 8h. L'info toujours en compagnie d'Elisa Lukaski. Rebonjour Elisa. Et puis j'accueille nos débatteurs du matin, Guillaume Bigot à nouveau. Rebonjour Guillaume.
Rebonjour.
Et Denis de Montpion, bonjour. Bienvenue à tous les deux. Mais d'abord donc le journal et les titres de ce dimanche. Avant de mettre le bulletin dans l'urne, les Français vont scruter très attentivement leur portefeuille alors que l'inflation ne cesse d'augmenter. Le pouvoir d'achat émerge comme principal sujet de préoccupation à 6 mois de la présidentielle. La gauche, elle, entre en campagne. Jean-Luc Mélenchon tente de remobiliser ses troupes pour la France insoumise à Reims. Et puis chez les socialistes, le tractage commence pour la candidate et maire de Paris, Anne Hidalgo. Enfin, un seul numéro pour les urgences, le 112. La mesure existe chez nos voisins européens, mais divise en France entre pompiers et urgentistes. Emmanuel Macron a confirmé hier vouloir lancer cette plateforme unique. Elle devrait être expérimentée pendant 2 ans. Il va donc y avoir vraisemblablement, Elisa, très prochainement, cette fameuse plateforme unique avec un numéro, le 112.
C'est ce qu'a proposé en tout cas Emmanuel Macron hier au Congrès national des sapeurs-pompiers à Marseille. Une expérimentation dès 2022 et pour 2 ans qui concernera les appels vers le SAMU, la police ou les pompiers. Chana Louto nous explique tout.
Oui, bonjour.
Appeler un seul et même numéro pour un incendie, un infarctus ou encore un cambriolage. C'est la proposition d'expérimentation d'Emmanuel Macron.
Notre volonté est d'avoir une France unie, d'avoir des sapeurs-pompiers, des soignants, des urgentistes qui travaillent main dans la main pour l'efficacité de nos territoires.
Dès l'année prochaine, 3 plateformes seront testées pendant 2 ans, dont une regroupant l'ensemble des appels passés au 15, au 17 et au 18, sous le numéro du 112. Pour la porte-parole de la Société française de médecine d'urgence, Agnès Ricard-Ribon, l'idée d'une plateforme unique peut être un danger pour les patients.
Rajouter un intermédiaire, ça va être non seulement une perte de temps, mais aussi une perte d'expertise. Il risque d'entraîner une perte d'information, voire même une distraction de l'information.
Pour d'autres professionnels de santé comme Éric Chanzy, responsable du SAMU 93, une plateforme unique peut également être risquée en cas de panne des numéros d'urgence, comme c'était le cas en juin dernier.
Ce n'est pas très logique de vouloir avoir un seul numéro alors qu'on sait que si ce numéro tombe en panne, on est vraiment très 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 embêté. Moi, à mon avis, garder 2 ou 3 numéros d'urgence, c'est une certaine sécurité.
Plusieurs pays européens comme le Danemark, la Finlande et le Portugal utilisent déjà une plateforme unique pour les numéros d'urgence.
La politique, et je vous le disais en titre, la cote de popularité d'Emmanuel Macron continue de grimper.
Selon le baromètre mensuel, IFOP pour nos confrères du journal du dimanche, le président de la République recueille 40% d'opinions positives en octobre. C'est 2 points de plus que le mois précédent, une cote de popularité stable, mais qui a notamment progressé, notamment chez les jeunes de 18 à 24 ans depuis septembre, atteignant aujourd'hui 46% d'opinions favorables dans la catégorie des jeunes. Donc.
au Parti socialiste. La campagne officielle commencera samedi prochain à Lille.
Avec une convention d'investiture qui sera purement symbolique, puisque c'est Anne Hidalgo qui a été choisie jeudi par son parti. Si sa candidature peine à décoller, les militants, eux, ils s'activent. Les collages d'affiches et opérations de tractage se multiplient, notamment à Lille avant le rendez-vous de samedi. Et sur place, deux ambiances, des militants enthousiastes et certains sympathisants croisés qui sont plutôt sceptiques. Écoutez.
Je pense vraiment que Anne Hidalgo, c'est celle qui incarne le mieux aujourd'hui la volonté de faire la transition écologique dans la justice sociale. Ça, c'est les deux bouts de notre programme. Je pense que c'est ce qui nous distingue d'autres offres politiques.
Elle devrait plus s'occuper de Paris. Elle a déjà beaucoup à faire.
J'espère qu'elle va pouvoir rassembler la gauche ou faire partie d'un rassemblement.
Un sujet très politique, celui-ci, entre les chasseurs et les défenseurs de l'environnement. Voilà les chasses traditionnelles qui reviennent dans l'actualité.
Et notamment les captures d'oiseaux, les captures par cage ou par filet, elles avaient été jugées illégales par le Conseil d'État. Mais ces pratiques sont à nouveau possibles depuis la publication de plusieurs arrêtés ce vendredi. Reportage sur des terres de chasse dans les Landes, signé Jérôme Rampenou et Antoine Estève.
La cabane de chasse est au milieu des champs. C'est ici que les alouettes viennent se reposer et manger pendant leur migration depuis le nord de l'Europe. Depuis plusieurs générations, la famille de Bernard Baille capture des oiseaux, ici, avec un système ingénieux de filets au sol. Pour lui, c'est plus qu'une tradition, c'est une culture.
C'est un art, partout c'est un art, la chasse à la bécasse c'est un art, la chasse à la thonne c'est un art, la chasse au filet c'est un art, c'est une culture. Aller en battue ça ne m'intéresse pas, aller tirer, faire du tir, tirer des grilles, pour moi c'est pas de la chasse, c'est du tir.
Les chasseurs des Landes dénoncent des textes européens qui vont à l'encontre du monde rural.
On voudrait qu'on soit tous dans le même moule, non, je suis désolé, le sud-ouest c'est une culture, le sud-est une autre, le nord une autre, mais chacun ses cultures, chacun ses différences, il faut faire avec, c'est tout.
La Ligue protectrice des oiseaux estime que ce retour en arrière sur les chasses traditionnelles, c'est une mesure électoraliste avant la présidentielle.
La France veut donner l'exemple, elle ferait bien de commencer par elle-même plutôt que d'aller donner des leçons aux autres pays. Encore une fois, on est le dernier qui autorise ces pratiques qui sont non sélectives et qui tuent des oiseaux protégés.
Un arrêté ministériel autorise de nouveau les chasses traditionnelles comme celle au filet, une première victoire pour les chasseurs. Mais les associations de défense des oiseaux ont déjà annoncé plusieurs recours en justice contre ces décisions.
Du sport avec le marathon qui va bientôt démarrer, Elisa. Le marathon de Paris, bien sûr.
Il est parti depuis 5 minutes, Isabelle.
Ah, bah voilà, j'avais un petit temps de retard.
Pas tout le monde. Vous savez, ça se fait par vague. Donc, il y en a qui sont encore sur la ligne de départ. Peut-être qu'ils nous écoutent sur Europe 1 également. La date est inhabituelle pour ce marathon de Paris qui a lieu d'habitude, vous le savez, au printemps. Mais la crise sanitaire oblige. Eh bien, on a dû reporter plusieurs fois cette édition. Entre 30 et 35 000 coureurs s'élanceront sur un parcours qui part des Champs-Élysées, direction l'Est parisien, avant de longer les bords de Seine pour rallier le bois de Boulogne et arriver sur l'avenue Foch avec en ligne de mire le formidable Arc de Triomphe. Ça donne des ailes quand on a encore un petit peu d'énergie pour boucler les derniers mètres.
Et puis du football.
Oui, un petit peu de foot, un mot de foot quand même pour vous dire hier que Lyon s'est imposé face à Monaco, un succès qui a mis quand même du temps à se dessiner pour les Lyonnais. Lyon qui ouvre le score sur pénalty grâce à Karl Toko Ekambi qui va s'offrir un deuxième but au bout du temps réglementaire à la 90e minute avec l'international belge Jason Denayer. Lyon qui remonte 5e au classement grâce à cette victoire sur Monaco.
Merci beaucoup Elisa Lukewski. On vous retrouve pour un nouveau point complet sur l'actualité à 8h30. Un coup d'œil sur votre météo de ce dimanche avec vous, Claire Delorme. Du beau temps, perspective encore.
Exactement, une journée très calme et ensoleillée avec encore un petit peu de patience en matinée avec ces nombreux brumes et brouillards qui vont surtout bien être accrochés dans le quart nord-est. Mais dans l'après-midi, vous allez voir, ça va se dégager. Par contre, la façade ouest, quant à elle, aura pas mal de nuages, surtout donc de la Bretagne en direction du littoral aquitain avec en prime quelques gouttes. Et le soleil résiste bien à l'est par contre. Et dans l'après-midi, les températures, elles seront douces, on peut parler douceur. La maximale de 24 degrés en direction de Bordeaux. Encore de la douceur près de la Méditerranée, entre 20 et 22 degrés. Mais il fera beaucoup plus frais là encore dans le nord-est, avec 14 degrés, que ce soit à Strasbourg ou encore du côté de Metz.
Merci beaucoup Claire, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Tout de suite le débat.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Le débat sur CNews et Europe 1, il est 8h07 exactement. Merci à vous de nous rejoindre avec Guillaume Bigot, politologue, et Denis de Montpion, éditorialiste. Alors c'est difficile, évidemment, de faire des prédictions sur le second tour. On est à 6 mois seulement de la présidentielle. En revanche, ce que l'on sait déjà, c'est que l'élection pourrait se jouer en grande partie sur la question du pouvoir d'achat. C'est la principale préoccupation des Français. Emma Guessel, qu'en est-il exactement ?
Eh bien, les différents candidats à l'élection présidentielle l'ont bien compris. Chacun y va de sa proposition pour augmenter les salaires. Ce sont des tentatives d'abus de confiance sans aucune crédibilité. La phrase est signée François Bayrou. Dans le JDD, il met en garde les candidats contre, je cite, leurs promesses mirobolantes sans financement réalisable. Selon un rapport de l'Observatoire français des conjonctures économiques, le niveau de vie des Français s'est amélioré pendant le mandat d'Emmanuel Macron. Ils ont bénéficié de 334 euros de gains annuels par ménage. Alors pourquoi les Français ne le ressentent-ils pas ? Eh bien, c'est parce que les prix, eux, repartent à la hausse. Cela se ressent sur les loyers, le ticket de caisse au supermarché ou encore le carburant. Et cela pèse non seulement sur le budget des ménages, mais également sur leur morale.
Merci beaucoup, Emma. Alors, c'est un caillou dans les chaussures de qui, Guillaume Bigot, cette histoire du pouvoir d'achat ? Est-ce que c'est pour Emmanuel Macron, s'il se représente ? Parce que c'est lui qui sera le tenant de ce bilan et de ce
D'abord,
problème
ça,
de pouvoir d'achat.
Ça me paraît difficile de dire que le journal du dimanche, qui était un formidable confrère, qui est un titre très bien installé et sérieux, mais qui a pris un positionnement, enfin qui est un positionnement idéologique, c'est un peu la newsletter de l'Élysée, enfin, on a bien compris. Donc si il est, la question c'est de savoir pourquoi cette thématique surgit et pourquoi d'un seul coup en surgissant, à qui elle va profiter.
Je précise que ce n'est pas seulement le journal du dimanche. Il y a plein de sondages qui indiquent que c'est la principale préoccupation des Français.
Oui et non, parce que j'ai vérifié, j'ai recoupé un certain nombre de sondages. Par exemple, vous avez le Poll in Vox qui a été fait avec la revue politique et parlementaire dans des conditions très très scientifiques. On voit que le changement climatique arrive comme première préoccupation à 26%, la délinquance 24%, la poussée migratoire à 24%, la pauvreté à 23%. Moi, j'aurais deux commentaires à faire très simples. Le premier, c'est qu'un peu, vous savez, dans les entretiens d'embauche, c'est-à-dire qu'on dit, mais quel est votre principal défaut ? Et vous dites, ah, je suis peut-être quelqu'un d'un peu trop perfectionniste. Là, c'est la même chose. La question du pouvoir d'achat, c'est quoi ? C'est de dire, mais regardez, le gouvernement a quand même amélioré la situation, ce qui n'est pas faux d'ailleurs sur le plan économique. Et donc, ça permet de faire diversion par rapport aux thématiques, disons, régaliennes. Ça permet de faire diversion par rapport aux enjeux de l'immigration, de l'insécurité, etc., qui sont portés notamment
et
par Éric Zemmour.
Et de faire diversion, oui, c'est ça, par rapport
bien
à la
évidemment,
d'Éric Zemmour.
On a bien compris. Deuxième question, évidemment, ça permet en fait de revenir un peu sur le... en quelque sorte sur le terrain, mais je crois finalement que c'est aussi de la langue managériale de bois, parce que vous savez, par exemple, dans l'entreprise, on ne parle plus de plan social, on ne parle plus de plan licenciement. Le plan licenciement s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc la question du pouvoir d'achat, bah, c'est une antiphrase. Évidemment, c'est la question de la pauvreté. Et d'ailleurs, M. Bayrou avait pas mal de choses à se faire pardonner, puisqu'il avait, quelques mois de ça, dit, mais vous savez, la classe moyenne en France, c'est 4000 euros par mois. Alors après vérification, non, c'était 3470 pour 8% seulement des ménages. Ce qui souligne en fait un déclassement social gigantesque. Et ce que mesurent les sondages, c'est qu'effectivement cet enjeu du pouvoir d'achat est important. En fait, la préoccupation de la pauvreté est importante. Grand déclassement, grand réchauffement, grand remplacement, ça fait un bloc. Les Français ont l'impression que leur pays tombe sous leurs pieds.
Denis de Montpion ?
Vous savez qu'il y a un mot très à la mode, c'est le ressenti. Alors,
c'est ça.
Le gouvernement,
pour les températures et pour le reste.
Voilà, le gouvernement peut toujours dire votre pouvoir d'achat. Bruno Le Maire, d'ailleurs, a indiqué que depuis le début du quinquennat, le pouvoir d'achat avait progressé de, je crois, 1,5%, ce qui est d'ailleurs relativement peu. Mais quand on arrive à 6 mois d'une élection comme l'élection présidentielle, qu'on s'aperçoit que les carburants augmentent à la pompe. Enfin, il suffit de circuler un peu pour voir que le gazole est à plus
de 1,50€. Que l'énergie globalement augmente,
le
gaz, le chèque énergie, pas, d'où bientôt peut-être le chèque
36%, plus de 36% en 4 mois. Enfin, j'en passe et des meilleurs, l'électricité. Et ce n'est pas tout, comme le disait tout à l'heure votre journaliste. Quand vous sortez du supermarché, que vous allez sur votre marché, tout simplement, acheter vos fruits et légumes qu'on nous recommande de manger à raison de 5 chacun par jour, la facture a augmenté parce que les fruits ou les légumes viennent d'Espagne, du Pérou, d'ailleurs. Quand on voit les affichettes, ça a beaucoup progressé en quelques mois. Donc, évidemment, les
Donc,
gens...
Donc, pour vous, contrairement à ce que dit Guillaume Bigot, ça pourrait gêner, ça,
Mais
Emmanuel
bien
Macron.
Entendu, parce que, d'ailleurs le Premier ministre avait, d'ailleurs, pour l'énergie, annoncé qu'il y aurait ils allaient sursoir à l'augmentation de l'électricité. Vous voyez Xavier Bertrand, qui est candidat à la candidature d'une certaine manière, qui dit qu'il va proposer une prime au travail qui n'est autre que la prime d'activité actuelle. Mais je voudrais donner un exemple très précis. La semaine dernière, je rencontrais une institutrice. On sait combien les Français sont attachés à l'instruction des enfants, l'éducation nationale. Eh bien, cette institutrice, elle gagne par mois net 1400 euros, tout bien pesé. Elle est obligée de travailler dans un restaurant fast-food pour pouvoir améliorer son ordinaire. C'est proprement scandaleux quand on entend les discours politiques en disant...
Oui, bah, Anne Hidalgo, on va, par exemple, on va donner propose des de doubler primes, etc., le salaire etc. des enseignants.
Oui, bon, on rase gratis. C'est pas tenable, ça. On rase gratis. Non, en fait, je pense que c'est pas faux que la situation ne s'est pas littéralement effondrée pour une raison simple, c'est qu'il y a eu ces mécanismes de relance et qu'on a cessé cette politique, on peut dire, foldingue, qui consistait à avoir comme premier poste de l'État pendant 25 ou 30 ans des dizaines de porte-avions et des milliers, voire des dizaines de milliers d'hôpitaux, c'est-à-dire le remboursement de la dette. Voilà, ça, cette politique a été stoppée. Ce n'est pas de la volonté de M. Macron, il voulait faire ça, il a été élu pour ça. Et d'ailleurs, les candidats veulent faire la même chose. Mais le Covid en a décidé autrement. Donc effectivement, ça a maintenu les choses. Plus le plan de relance, ça a maintenu le pouvoir d'achat. Je suis assez d'accord, il y a une différence entre le ressenti de ce pouvoir d'achat et le reste. Maintenant, il faut quand même juger un arbre à ses fruits. Et donc, en matière de soutien aux uns et aux autres, 3,2 milliards par an, c'est la transformation de l'ISF en IFI. 1,3 milliard par an, c'est la mise en place du PFU. 70 millions par an, c'est la suppression possible de l'exit tax en 2019. Ça, c'est ce qui est rentré, donc 3,2 plus 1,3 plus 70 millions, c'est ce qui est rentré dans la poche des Français les plus riches. Maintenant, ce qui a été donné à tous...
Il faut bien faire le distinguo.
Alors là, les vrais très très riches, hein, c'est vraiment les 1%. Qu'est-ce qui a été donné aux ménages ? Souvenez, 3 milliards. 3 milliards de baisse de la taxe d'habitation. Donc autant a été donné à 1% qu'à des dizaines de millions.
Attendez, la taxe d'habitation, le problème avec cette taxe d'habitation, ça a été annoncé en effet, baisse de la fiscalité. Et en réalité, c'est un yo-yo, c'est-à-dire que...
Vous avez raison, c'est aussi un tour de passe-passe.
Voilà.
On fait le même diagnostic,
alors,
finalement.
L'horizon, c'est 2023. Nous ne sommes qu'en 2021.
Exactement.
L'élection, c'est dans 6 mois. Donc, on n'y est pas. Et les Français qui reçoivent, après les promesses du gouvernement... C'est ça, voilà. Tout.
En fait, en résumé, ce gouvernement
c'est
a donné
ça, toute
autant...
C'est ça, toute la difficulté d'annoncer...
Avec notre argent, avec nos impôts, il a donné
tellement
autant
de propositions mirobolantes,
quasiment
vous
toute la population.
Vous parlez tous les deux de concert. Juste d'un mot. Éric Zemmour et Marine Le Pen, on a vu beaucoup de discussions, des rencontres avec Robert Ménard, avec Gilbert Collard. Est-ce que oui ou non, il y a une alliance qui se prépare, ou est-ce que, comme le dit Éric Zemmour, c'est niette ?
Éric Zemmour n'a aucun intérêt. Aucun intérêt à faire alliance avec Marine Le Pen. Alors, les sondages valent ce qu'ils veulent, mais en attendant, ils talonnent dans les sondages Marine Le Pen, qui a perdu quand même beaucoup d'influence d'une certaine manière, quand on voit, parce que d'abord, personne n'a oublié qu'il y a 5 ans, elle avait quand même complètement raté ce fameux débat
d'entre-deux-tours
avec Emmanuel Macron. Et Éric Zemmour, de ce point de vue-là, personnellement, il n'aurait aucun intérêt à coller à Marine Le Pen pour être, je ne sais pas quoi, son premier ministre, etc. Non, il y a un premier tour. Dans une élection présidentielle, chacun a intérêt à rouler pour sa propre écurie. Et ensuite, c'est entre les deux tours que
à
ça...
À condition d'avoir une écurie avec les parrainages et
l'argent qui
va avec.
Mais bien sûr, mais enfin, bon, il y travaille.
Guillaume Bigot,
mais comme on l'a dit hier, c'est la stratégie d'Éric Zemmour, c'est la stratégie de l'aimant, à équidistance entre, entre LR et le RN. S'il se rapproche trop de l'un, il se rapproche trop de l'autre. Cette stratégie de l'aimant tombe d'une certaine façon. Pour rester aimable, il doit rester un aimant. Enfin, les arguments sont très simples. Ça a été dit. Évidemment, il y a quand même une autre ampleur, une autre amplitude intellectuelle en termes de vision, en termes de sophistication du logiciel Zemmour, ça c'est certain. Et enfin, il y a une virginité politique. C'est un OPNI, exactement comme l'était Emmanuel Macron en 2017.
Un OPNI, c'est votre formule, ça.
Un objet politique non identifié.
Merci beaucoup, Guillaume Bigot, politologue, et Denis de Montpion, éditorialiste, pour ce débat. Le grand rendez-vous, c'est bien sûr à 10h, comme tous les dimanches sur CNews Europe 1, avec Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invitée ce matin ?
Bonjour à vous Isabelle et bonjour à tous. Notre invité, c'est le candidat au Congrès des Républicains, Michel Barnier. Et si c'était lui et s'il crée la surprise, vous savez, c'est la petite musique insistante qu'on entend de plus en plus et qui le placerait en favori.
Quel est le thème principal sur lequel vous allez l'interroger, Sonia ?
Eh bien Isabelle, on va l'interroger sur l'Europe et l'immigration. Ce sont ses propositions choc, mais nous essayerons de savoir quelle est sa cohérence sur ces propositions eu égard à son parcours européen. Michel Barnier, donc ce sera à 10h à la fois sur CNews et sur Europe 1. Je vous dis à tout à l'heure.
Merci beaucoup Sonia. Sonia Mabrouk, à tout à l'heure. Tout de suite, on parle de santé dans votre matinale week-end. L'heure de la chronique santé dans la matinale week-end avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte.
Bonjour Isabelle.
En un mot, musique ce matin, oui. Ça fait du bien aux oreilles, mais pas seulement, c'est excellent pour la santé.
Mais c'est très bon pour la santé. En fait, ça va agir, la musique va agir sur notre cerveau et va activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Déjà, rien que le mot, c'est beau.
Ça fait du bien.
Et alors là, il va y avoir plusieurs hormones qui vont être sécrétées. La dopamine, comme son nom l'indique, elle va vous doper, elle va vous mettre en éveil. Après, il va y avoir la sérotonine. Elle va plutôt réguler nos humeurs. On l'appelle aussi le vaccin anti-chagrin. C'est plutôt sympathique, non? Et enfin, les endorphines. Endorphines, vous savez, elles sont aussi sécrétées dans le sport, etc. Elles sont apaisantes, elles calment les douleurs, un peu euphorisantes, voilà. Donc le circuit de la récompense quand il y a de la musique.
Bon, mais ça marche avec Mozart ou Vivaldi?
Non, non, ça marche avec toutes les musiques, même avec de la variété, avec du jazz, avec ce que vous voulez.
Avec du rap?
Mais avec tout, avec du rap et tout. Mais pourquoi croyez-vous que toutes les personnes qui prennent les transports le matin mettent des casques, etc.? Ça vous met en éveil, ça vous met en forme pour la journée, ça vous met de bonne humeur. Et c'est formidable la musique. Donc, et en plus, ça apaise aussi, ça, vous voyez, il y a toutes les vertus. Il y a la vertu éveil, et comme on le disait, dans le circuit de la récompense, il y a aussi ce qui apaise. On s'est aperçu, vous savez, quand il n'y a pas une anesthésie générale, bien sûr, mais quand il y a une anesthésie locale, les patients mettent un casque avec de la musique, ça diminue de 40% la prise antalgique après de médicaments contre la douleur. Donc on le voit, ça marche bien.
Et ça fonctionne sur certaines maladies. On parle de musicothérapie, par exemple, pour Alzheimer.
Oui, en fait, comme ça agit sur le cerveau, ça va agir effectivement sur toutes les maladies neurologiques aussi. Donc sur Alzheimer, on s'est aperçu que les patients à qui on faisait écouter de la musique pouvaient même fabriquer de nouveaux réseaux de neurones, même apprendre de nouvelles mélodies. Vous vous rendez compte, c'est énorme quand même.
C'est très puissant.
Après, il y a aussi d'autres effets sur la maladie de Parkinson. Vous savez, la maladie de Parkinson, c'est plutôt une maladie où on est ralenti, on a du mal à coordonner ses mouvements. C'est une maladie du mouvement, hein, la maladie de Parkinson. Et là, on fait la stimulation rythmique auditive. C'est une réduction. Mais là, on met une musique un peu différente, un peu plus rythmée. Après, on s'est aperçu que ça fonctionnait aussi dans les épilepsies. Vous savez, l'épilepsie, c'est une maladie électrique, hein, puisque le cerveau, c'est des ondes électriques. Et là, au contraire, je vous rejoins sur votre question tout à l'heure, là, on va mettre de la musique douce, des sonates. On a appelé ça l'effet Mozart pour l'épilepsie.
Alors, on parle de l'écoute, mais l'apprentissage de la musique, c'est bon aussi pour la santé?
Alors, c'est pas bon, c'est le top du top. Parce qu'en fait, et en plus, plus vous commencez petit, parce qu'en fait, quand vous apprenez à jouer d'un instrument ou quoi, donc il y a la mémoire qui se met en marche, il y a le rythme, et votre cerveau, quand vous êtes petit, vous pouvez le sculpter, il est beaucoup plus malléable que le nôtre, enfin que le mien surtout. Et donc vous allez pouvoir sculpter votre cerveau. Et ça a quand même poussé certaines personnes à dire qu'aller au conservatoire, c'était comme aller deux fois à l'école. Hein. Et puis je vous rassure, de toute façon, là je parle des tout petits,
oui.
Mais on peut apprendre à n'importe quel âge, ça vous fera du bien, c'est très bon pour le cerveau.
Nous voilà rassurés. Donc on la pratique, on l'écoute et dans tous les cas ça fait du bien.
Dans tous les cas ça fait du bien. Je vous ai passé tous les détails sur la fréquence cardiaque, ça ralentit la fréquence cardiaque, ça fluidifie le sang, ça stimule l'immunité. Un seul bémol si je peux me permettre, il ne faut pas l'écouter fort. Sinon là ça abîme les oreilles.
On ne l'écoute pas fort mais on l'écoute sans modération, voilà. La musique. Merci, c'était notre chronique santé avec le docteur Brigitte Millot.
La matinale week-end, CNews, Europe 1, Isabelle Moreau.
Il est presque 8h30, vous êtes toujours avec nous dans la matinale week-end. Merci, tout de suite les principaux titres de l'actualité avec vous, Elisa Lukaski.
Et on ouvre ce rappel de l'actualité avec ce reportage sur les migrants. On l'a vu en début de semaine, hein, ce drame, ces trois migrants fauchés par un train à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, à proximité de la frontière franco-espagnole. La pression là-bas, elle est très forte pour les policiers. Chaque jour, ce sont des dizaines de migrants qui tentent de rallier la France par tous les moyens. Antoine Estève nous raconte.
Quand le train espagnol entre en gare d'Hendaye, les gendarmes contrôlent les passagers.
On ne peut pas prouver qu'il y a un côté raciste, mais bon, on arrête plus facilement ceux qui sont un peu bronzés, quoi.
Aïn Sané milite dans une association d'aide aux migrants. Dans ce quartier, ceux qui viennent de passer la frontière cherchent le plus souvent un moyen d'aller à Calais pour passer en Angleterre. Et ici, ils arrivent sur une terre moins hostile qu'à la frontière italienne.
Le Pays Basque est l'instance de la communauté et de l'aide de l'autre. Je ne dis pas tout le monde, mais on conçoit que ces personnes puissent passer et puissent vouloir rester. Et on a connu ça.
Ceux qui vivent à côté des ponts, très surveillés entre l'Espagne et la France, croisent des migrants tous les jours. Entre Irun et Béra, ils sont des dizaines à tenter leur chance sur des sentiers très escarpés.
Parfois, les chemins empruntés par les clandestins sont beaucoup plus discrets et beaucoup plus dangereux. Je viens de passer la nationale espagnole qui se trouve juste derrière moi. Je vais grimper quelques centaines de mètres sur cette colline. Et de l'autre côté, c'est la France.
Les migrants venus d'Afrique de l'Ouest, du Sahel ou du Soudan doivent ensuite rejoindre une route ou une voie de chemin de fer. Laurent Saïssé est policier et délégué à Alliance.
Les migrants prennent tous les risques pour pouvoir passer. Là, nous sommes débordés, nous sommes en sous-effectif. Nous n'avons que deux patrouilles pour assurer le quotidien et la gestion du flux migratoire.
Au Pays Basque, les polices françaises et espagnoles estiment que 17 000 migrants sont passés par ces routes de l'Exode depuis le début de l'année.
Jean-Luc Mélenchon prononce ce matin un discours devant ses troupes réunies pour la convention d'Union populaire de la France insoumise du côté de Reims. L'objectif, c'est de mobiliser les militants pour faire campagne alors même que la gauche peine à dépasser les 10% d'intention de vote. Mais pour se lancer dans l'aventure, Jean-Luc Mélenchon doit d'abord obtenir 500 parrainages d'élus. Une manifestation pour dire non à la violence était organisée hier à Ivry-sur-Seine à l'initiative d'élus et de riverains qui se sont mobilisés un rassemblement à l'appel de la municipalité suite à l'agression au couteau et par une dizaine d'individus d'un adjoint au maire. C'était le week-end dernier. De proches de cet élu s'étaient interposés et avaient été légèrement blessés. Le maire de la ville déplore ces actes de violence qui se multiplient ces derniers temps. On l'écoute.
Ivry refuse ces agressions dont deux de mes adjoints ont été victimes. Et comme je l'ai dit, cette agression s'inscrit dans la suite d'une spirale de violence qui s'est développée dans notre ville depuis environ un an et demi, qui a d'ailleurs conduit à la mort d'un jeune au mois de juin, dans le cadre d'une fusillade. Et c'est dramatique quand un enfant d'Ivry se fait voler sa vie pour des histoires de conflits interquartiers auxquels on n'est absolument pas habitué dans cette ville et qui sont des phénomènes totalement nouveaux.
Merci Elisa Lukaski pour ce point sur l'actualité. Bonjour à vous Mathieu Alterman.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans la matinale week-end. Vous nous réveillez avec un groupe de légendes, les Beatles. Un an après leur séparation, vous nous dites que les Beatles sont de retour.
Bah écoutez, déjà un petit souvenir sonore.
Un petit get back,
parce qu'on y retourne finalement.
Oui, c'est ça, en arrière.
On retourne en 1969. Alors évidemment, non, les Beatles ne se reforment pas. John Lennon et George Harrison sont toujours morts. Mais événement incroyable, sorti d'un coffret Let It Be, 6 CD, 5 vinyles et d'un film de 3 fois 2 heures sur Disney+. C'est un événement incroyable. Je vous explique le contexte pour les néophytes. En janvier 69, les Beatles se retrouvent en studio. Ils ont l'intention de démarrer peut-être un concert, revenir sur scène alors qu'ils ne donnent pas de concert depuis 1966. Ils veulent retravailler leurs chansons de manière très brute, un peu rock, voilà, bon. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ne se passe pas du tout comme ça devrait se passer. Déjà, ils sont filmés dès le matin, ils ont l'habitude d'enregistrer la nuit, donc ils sont très très mal à l'aise. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler pour des histoires épouvantables. Il y a une ambiance délétère, horrible. John Lennon est sous l'influence de l'héroïne et Yoko Ono. Et en plus, son meilleur ami a installé un studio soi-disant très perfectionné, mais a oublié de mettre les trous pour faire passer les fils, a oublié d'isoler le radiateur. Du coup, ils sont obligés de couper les radiateurs et pendant le film, on les voit, ils ont des manteaux de fourrure sous des pulls, ce qui est très compliqué pour jouer de la guitare. Bref, le projet tombe à l'eau, c'est une catastrophe. Au bout de 3 semaines, on coupe tout. Et plus d'un an plus tard, un mois après la séparation des Beatles, l'album Let It Be sort en mai 70, le film sort également, mais dans une ambiance alors que le groupe n'est plus là et le groupe avait eu le temps d'enregistrer Abbey Road quelques mois avant. Le film est invisible pendant des décennies. L'album est un succès, mais c'est un peu le mauvais petit canard de la discographie des Beatles.
Alors, c'est quoi la nouveauté de 2021
pour les nouveauté, Beatles? Elle est incroyable. On a retrouvé 60 heures de rush du film et on se rend compte qu'en fait, bah, l'ambiance, elle était bonne. En fait, c'était plutôt la grande déconne comme on a connu dans les premières années des Beatles, que ça n'avait rien à voir avec l'ambiance qui oscillait entre les films de Berman ou de Michael Haneke. On voyait un groupe qui s'entre-déchirait et on remonte le film tel qu'il était prévu en 1969, avec vraiment quelque chose de frais qu'on connaît chez les Beatles, réalisé, il faut quand même le dire, par Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux. C'est quand même pas n'importe quoi. Donc on est très très pressé que ça sorte. Ça sort dans 3 semaines. Le film, le disque vient de sortir vendredi. Il y a des inédits, il y a des maquettes, il y a des mixages qui avaient été repoussés à l'époque. Et puis des photos jamais vues, c'est la fête.
Mais oui, donc c'est le témoignage finalement d'un groupe qui n'allait pas si mal que ça.
C'est le témoignage de 4 amis qui s'aimaient très très fort. Et même si c'est McCartney qui annonce la séparation en avril 70, on apprend aujourd'hui que Lennon avait déclaré dans le privé qu'il voulait quitter le groupe. Mais en même temps, c'est incompréhensible puisqu'il voulait quitter le groupe 6 mois après cet enregistrement chaotique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On pense aujourd'hui, on le sait, que le problème ne venait pas de McCartney contre Lennon. Le problème venait peut-être de George Harrison contre les deux autres, qui prenait de l'assurance pour composer des chansons de plus en plus mythiques, alors que Lennon était un petit peu... À un moment, George Harrison veut quitter le film, par exemple. Il part pendant une semaine. Lennon dit, c'est pas grave, on va le remplacer par Eric Clapton. Dur, très très dur. Donc finalement, plus de 50 ans plus tard, les 60s ne sont pas mortes. On retourne en janvier 69, quand le rêve était pour nous tous. On pensait que l'amour allait gagner sur tout. Mais bon, ça n'a pas se laissé en fonctionner. On écoute.
Merci beaucoup Mathieu Alterman pour ce retour des Beatles en cette année 2021. Dans quelques instants, juste après votre météo, vous retrouvez Jean-Pierre Elkabbach, son invité ce matin, l'ancien ministre de l'écologie, François de Rugy.
Jean-Pierre Elkabbach, la matinale week-end, CNews Europe 1.
Du pouvoir, des homards et surtout de l'écologie, c'est un livre de combat. Et en même temps, un témoignage personnel. Bonjour François de Rugy.
Bonjour.
Merci de parler avec nous, presque pour la première fois, de votre livre. Vous dites que vous aimez l'océan. Lors de la crise que vous avez traversée, vécue, douloureuse sans doute pour vous, vous avez senti que vous étiez frappé par des vagues et encore des vagues. Mais apparemment, vous avez été emporté, mais pas noyé.
Oui, c'est un peu l'image que j'emploie, parce que je crois que c'est celle qui est la plus proche de ce que j'ai ressenti sur le moment et de ce que ressentent sans doute des gens qui subissent comme ça des attaques médiatiques extrêmement fortes, violentes même. Mais heureusement, on n'en sort pas...
Vous avez survécu.
Anéanti pour autant, voilà, ouais. Heureusement. Et d'ailleurs, il faut relativiser aussi. Hein. Il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus graves.
Évidemment. Mais vous dites bien, on comprend que le homard ne vous a pas tué, mais il vous a laissé des blessures.
Et malgré cette image qui a été employée plus qu'il ne le faut sur Internet.
Allez, c'était homard, vous c'est le homard. Bon.
Voilà, non mais c'est vrai qu'on pourrait parler du pouvoir des homards du pouvoir et ainsi de suite. La réalité c'est que justement dans ce livre j'essaye de rappeler les faits à la fois sur cette histoire, mais aussi plus généralement sur mon parcours, parce que je me suis rendu compte que moi, je n'avais jamais tellement parlé de moi.
Vous dénoncez la cabale des homards. C'est qui la cabale des homards?
En tout cas, on voit bien que c'était une opération qui a été menée pour essayer de m'abattre. D'ailleurs, malheureusement, ça a fonctionné du point de vue politique, pas du point de vue humain, heureusement, mais du point de vue politique, en effet, j'ai démissionné parce que j'ai considéré qu'à un moment donné, c'était plus possible d'exercer ma fonction de ministre sereinement.
Vous affirmez que vous n'êtes ni coupable ni victime, mais c'est vrai, comme vous le dites, que vous étiez ministre d'État numéro 2 du gouvernement, vous aviez lu, si je me rappelle bien, les déclarations du Premier ministre Édouard Philippe au Sénat.
Quelques jours auparavant.
Oui, mais vous avez dû démissionner.
Oui, c'est la vie politique et médiatique qui a fonctionné comme cela, car je me demande si aujourd'hui, il n'y a pas eu finalement... une forme de reflux, et tant mieux, c'est-à-dire qu'on devient un peu moins sous la pression du tribunal médiatique, en quelque sorte, et on voit qu'aujourd'hui, des ministres, même mis en cause, restent en fonction, parce qu'après tout, ce n'est pas parce qu'on est mis en cause qu'on est coupable.
Vous racontez effectivement des étapes de votre vie. Vous rappelez que vos parents étaient des enseignants, qui ont été même coopérants en Algérie. Malgré votre nom, François Goulet de Rugy, vous dites « je ne suis pas un aristocrate ».
Moi, je ne renie pas mes origines. Il y avait des gens qui m'avaient dit un jour, vous devriez changer de nom pour faire de la politique. Je dis non, moi, c'est le nom dont j'ai hérité par mes parents, par
vous
mes
grands-parents. Vous n'avez pas un château
Mais je n'ai jamais mené la vie de château. Voilà. Je ne suis pas né dans un château avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on le dit souvent.
Est-ce que vous n'avez pas trouvé la cuillère en argent, peut-être même en or, à l'Assemblée nationale, non?
Non, mais vous savez, quand on est président de l'Assemblée nationale, on est logé à l'hôtel de la Sée. C'est comme ça depuis que l'Assemblée nationale existe, c'est encore comme ça aujourd'hui. Et ce sera sans doute comme ça longtemps, comme pour l'Élysée, pour le président, et Matignon, pour le Premier ministre. C'est la tradition française.
Oui. Je passe sur le homard, la taille du homard, la photo, etc. Vous êtes entré en politique par l'écologie, et vous dites que vous êtes moins bien à Paris qu'à Nantes, qui est devenue une ville de culture, mais qui a en mémoire... le côté inséparable de la traite négrière. Et encore, en ce moment, il y a un colloque ou un congrès à Nantes sur l'esclavage et la traite négrière. Le 17 octobre 1961, c'est-à-dire 60 ans jour pour jour, Emmanuel Macron a reconnu hier des crimes, je le cite, des crimes inexcusables, des crimes inexcusables pour la République. C'est la première fois qu'un président de la République fait un tel geste, souligné hier ici, par notre ami Benjamin Stora, qui est le grand historien et le grand historien d'Algérie. Les réactions, on aurait pu les écrire hier. Les uns disent qu'il n'est pas allé assez loin. Maurice Papon n'était pas le seul concerné, bien que préfet de police. Et les autres, il est allé trop loin, etc., même s'il n'y a pas eu d'excuses ou de repentance. Où vous vous situez, vous ?
Moi, je trouve ça bien qu'un président de la République reconnaisse l'histoire. Je dis souvent, en matière d'écologie, qu'il faut s'appuyer sur la science. Bah, en matière d'histoire, il faut s'appuyer sur ce que disent les historiens. Ce n'est pas aux hommes et aux femmes politiques d'écrire l'histoire. En revanche, en politique, on a toujours, évidemment, parlé d'histoire, parce que c'est parler de la France que de parler de son histoire.
Oui, mais
et évidemment, l'histoire n'est pas blanche ou noire.
Est-ce qu'il est allé trop loin ? Est-ce qu'il aurait dû dire crime d'État ou sorte de crime d'État ?
Souvent, les choses se font par étapes. On le sait bien, la reconnaissance historique qui ne vaut pas repentance. Moi, par exemple, ma génération, je ne vois pas pourquoi elle s'excuserait de ce qui s'est passé à cette époque-là. Nous ne sommes responsables en rien de ce qui s'est passé. De même qu'on ne va pas accabler le général de Gaulle en disant quel scandale, ça anéantit tout ce qu'il a fait par ailleurs. Le général de Gaulle, c'est lui qui a fait l'indépendance de l'Algérie. Alors que quand il est arrivé au pouvoir, on pensait qu'il ferait plutôt l'inverse. Et
avait reproché lui-même des débordements à Maurice Papon, qu'il a reconnu hier dans une interview que j'avais faite en 1991.
Voilà, et ça, c'est intéressant parce que c'est l'histoire.
Oui. Bertrand Delanoë estime, c'est l'ex-maire de Paris, que hier, Emmanuel Macron a fait une initiative majeure et historique. Et en démocratie, cité Pierre Mendès France, un grand exemple, seule la vérité l'emporte. Voilà pour l'histoire. Pour vous...
Espérons que ce soit toujours vrai et dans tous les domaines, seule la vérité l'emporte.
Jeune député, François Drugy, président de l'Assemblée nationale, ministre de l'écologie, vous succédez au départ précipité de Nicolas Hulot. Au début, vous dites que vous le guidiez, vous l'aidez, sans avoir d'affinité avec lui. Vous dites qu'à ses yeux, il n'y a que lui qui compte.
Bah, en tout cas, c'est vrai que j'ai été frappé que lors de la passation de pouvoir, je raconte ce moment parce que c'est toujours important, on passe d'un ministre à un autre et symboliquement, il y a cette passation de pouvoir où il verse une larme. Et en fait, il verse une larme sur le fait, il dit, mais les gens auraient pu me témoigner leur soutien, presque leur amour, pendant que j'étais ministre plutôt que lorsque je démissionne, c'est-à-dire quelque chose de très auto-centré. Bon, moi, j'aurais souhaité qu'il poursuive son action dans la durée, parce que je crois qu'en matière d'écologie, et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, il faut agir dans la durée. Les défis sont tellement lourds à relever, et il faut les relever, absolument.
Ouais, vous,
il faut
vous,
commencer dès maintenant, mais il faut le faire avec un peu de continuité dans l'action.
Vous racontez que le président de la République, à ce moment-là, vous avez confié... qui ne savait pas, lui, Emmanuel Macron, combien de temps ça durerait avec
quand il
Nicolas
l'a nommé.
Hulot. Il n'avait pas d'illusion. Et vous ajoutez, en moins de 10 ans, Hulot a évolué vers une écologie de plus en plus radicale, messianique, quasi religieuse.
C'est ce que je crois beaucoup de gens ressentent, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, et c'est assez frappant de voir l'évolution de sa fondation d'ailleurs. Sa fondation au départ, il l'a créée pour faire de l'éducation à l'environnement avec le soutien d'entreprises privées. Il est critiqué d'ailleurs pour cela, et petit à petit finalement, il va plutôt vers une association un peu de combat, et qui est là pour dénoncer ou pour simplement promouvoir des idées, et n'est plus du tout dans l'action avec les citoyens.
Le seul service ou le principal service qui vous a demandé, d'après vous, c'est le retour de l'ours dans les Pyrénées. Assez vite, vous quittez les Verts, François Drugy, emporté, vous dites, par une dérive gauchiste trop rouge. Aujourd'hui encore ?
Ah ben, je crois que tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ce que je dis dans le livre et ce que j'avais dit il y a 6 ans dans un autre livre, se vérifie. C'est-à-dire quand vous voyez les débats qui ont eu lieu entre Madame Rousseau, par exemple Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, vous dites que c'est vraiment la course à la radicalité qui est en train d'emporter ce mouvement qui, pour moi, a pris en otage l'écologie dans le débat politique français. Et il faut absolument maintenant assumer qu'il y a plusieurs visions de l'écologie. Et moi, j'en développe une dans ce livre qui est fondée sur la science et le progrès.
Les Verts, qu'est-ce que vous voulez matraquer? Vous dites, j'ai vu les Verts se transformer en une officine gauchiste, en une entité politique de toutes les peurs. C'est le cartel vert. Le cartel comme les mafias. Le cartel vert.
On disait le cartel des gauches, vous savez, sous la Troisième République. Donc c'est une expression qui s'emploie aussi en politique pour dire que des gens entre une organisation politique, Europe Écologie Les Verts, et des associations, pas toutes, mais quelques ONG très visibles, très médiatiques, comme Greenpeace par exemple, eh bien en effet, développent une vision de l'écologie. D'abord qui n'est faite que sur la dénonciation, la protestation, l'opposition, hein, c'est un peu les anti-tout. Et puis qui en plus se déconnecte complètement de la science, ce qui est mortel pour l'écologie.
Mais
il faut absolument s'appuyer sur la science.
Vous dites ça parce que leurs propositions ne vous conviennent pas ?
Non, je dis ça parce que je vois comment le débat politique sur l'écologie aujourd'hui, il est complètement fixé, si je puis dire, les termes sont fixés par, en effet, le parti et les associations qui forment ce cartel vert.
Justement, vous tirez à boulets verts sur les ONG. Greenpeace, vous l'avez dit à l'instant.
On pourrait dire à boulets rouges, parce que souvent, ils sont plus inspirés par l'extrême gauche que par l'écologie.
On l'a souvent dit, les pastèques, vert à l'extérieur, rouge dedans. Vous en faites des ONG, des charlatans de l'écologie. Pourtant, vous reconnaissez que les ONG inspirent les décisions des gouvernements, comme s'ils faisaient pression sur eux. Et vous dites qu'il ne faut pas trop les écouter. Et il ne faut pas écouter davantage Greta Thunberg, parce qu'elle dit « Je ne veux pas de votre espérance aux jeunes, je veux votre peur ».
C'est dramatique. C'est dramatique qu'une jeune femme dise cela à des jeunes. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, en quelque sorte, faire commerce de la peur et considérer que le seul moteur de l'action politique et du débat politique, c'est la peur. J'ai entendu Sandrine Rousseau aussi parler de l'éco-anxiété. Donc, elle cultive cette éco-anxiété. Il faut absolument, au contraire, dire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, notamment sur ce défi du climat ou sur celui de la biodiversité ou sur celui de l'eau, sur l'adaptation au réchauffement climatique.
Une économie de la croissance et du progrès et pas de la régression.
Oui, moi, je pense qu'on doit s'appuyer sur trois piliers. La recherche scientifique, l'innovation technologique et le développement économique. Et c'est la combinaison des trois qui permet de relever les défis écologiques.
Alors, Yannick Jadot, vous le trouvez aveuglé par son opposition systématique à Emmanuel Macron. Et vous ajoutez cette confidence de Nicolas Hulot, Jadot, c'est le pire.
C'est ce qu'il m'avait dit, oui, parce qu'il trouvait que c'était lui qui, dès le début, l'avait attaqué sans relâche et avec une mauvaise foi souvent considérable. Il a continué. Bon, ça lui a permis peut-être de prendre une forme de leadership.
Vous le voyez au deuxième tour de la présidentielle ?
Le mouvement écologique ? Absolument pas. Non, alors là, mais pas un instant. Je crois que c'est ça, d'ailleurs, le problème aussi en France des écologistes, c'est qu'il n'y a pas cette réelle volonté d'exercer les responsabilités. Parce que quand on exerce les responsabilités, on se confronte aux réalités qui sont évidemment plus complexes que le slogan simpliste.
Et est-ce qu'Anne Hidalgo devrait se rallier à Yannick Jadot ?
Mais demandez-lui. Ce que je crois surtout, c'est que beaucoup d'électeurs, on va dire sociodémocrates, de centre-gauche, ils votent pour Emmanuel Macron. Ils l'ont fait en 2017 et sans doute qu'ils le feront en 2019. Ils ont travaillé d'ailleurs à les convaincre que la politique que nous avons menée depuis bientôt 5 ans est à la fois une politique équilibrée entre l'économie, le social et l'écologie.
Vous dites le seul qui aura le courage de décider des mesures les plus douloureuses qu'il va falloir prendre, et comme il a fait pour la pandémie, c'est Emmanuel Macron. C'est
crois qu'il y a un parallèle assez fort entre ce qu'on a fait dans la gestion de la pandémie et ce qu'on peut faire pour l'écologie.
Et vous dites que les solutions ne viendront pas d'une socialiste, pas d'un vert, pas de Marine Le Pen ou Éric Zemmour, pas de Xavier Bertrand et Michel Barnier. Vous n'entendez pas assez parler d'écologie.
Même pas du tout. Alors là, c'est sûr que Xavier Bertrand ou Éric Zemmour ou Marine Le Pen ne parlent quasiment jamais d'écologie. C'est assez frappant.
La campagne ne fait que commencer.
Même, vous voyez bien quelles sont les thématiques qui sont mises en avant. Même Michel Barnier, on a oublié qu'il a été un ministre de l'Environnement à une époque. Il n'en parle jamais. C'est quand même dommage. Moi, je trouve que ces sujets-là, tout le monde devrait s'en emparer et dire « voilà ce que je ferai si je suis élu président de la République ».
Je note que pour vous, il devrait y avoir plutôt le PS devant et Jadot derrière.
Oh non, mais ça, c'est aux électeurs de décider. Non, moi, ce qui me frappe, c'est que les deux partis, PS et Europe Écologie Les Verts, dans l'opposition depuis 4 ans et demi, n'ont développé en réalité aucune proposition. Ils se sont opposés, systématiquement. Ah ça, oui, opposés. Je le vois à l'Assemblée nationale. Mais en revanche, en termes de proposition, quand vous vous rendez compte qu'une candidate d'un parti qui a dirigé la France, le Parti Socialiste, en est simplement à lancer sa campagne autour du doublement du salaire des enseignants ou de la baisse de la vitesse sur les autoroutes, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas en termes de préparation à l'exercice des responsabilités.
Vous dites que l'écologie doit être défendue par tous les partis, on n'a pas besoin d'un parti vert.
Bah en tout cas, je souhaite que vraiment l'écologie infuse l'ensemble des mouvements politiques et qu'un parti à vocation majoritaire, comme par exemple le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, eh bien en effet se saisisse pleinement. Ce qui n'a peut-être pas été assez fait d'ailleurs, je le dis aussi, hein, depuis 4 ans et demi. Et moi je souhaite qu'on assume cette écologie de progrès que je développe dans ce livre.
François de Rugy-Lénine dit l'écologie c'est la sobriété plus l'électricité. C'est-à-dire que vous dites oui aux renouvelables. Mais pas à 100%, et vous croyez plus qu'avant, apparemment, à la nécessité durable de l'énergie décarbonée du nucléaire. Alors une question, est-ce qu'il faut arrêter de fermer les centrales nucléaires ?
En tout cas, on ne peut pas dire la première priorité, si on veut relever le défi du climat, la première priorité, ça ne peut pas être de sortir du nucléaire. Il faut évidemment dire la première priorité, c'est le climat. Et si on dit cela, il faut en tirer une conclusion concrète pour la France, mais aussi pour l'Europe et le monde, c'est que le nucléaire peut avoir son utilité. Et en France, on construit quelque chose d'original et d'efficace, c'est nucléaire plus énergie renouvelable. Et en tant qu'écologiste, on devrait reconnaître que c'est la bonne combinaison pour avoir une électricité zéro CO2. Parce qu'en France, on va arriver à ça. On va être le seul pays d'Europe qui va arriver à cela.
Surtout
et
que
c'est quelque chose qui va pouvoir
monter,
servir dans le reste de l'Europe.
Alors qu'il y a une demande très forte et qui va encore croître de l'électricité et du monde de
la consommation d'électricité va augmenter dans le futur avec les voitures électriques et avec d'autres usages.
Essayez de convaincre votre amie Barbara Pompili.
Je vois qu'elle évolue déjà un petit peu dans l'exercice de responsabilité.
Elle évolue. Barbara.
Du gouvernement, mais je vois que les décisions du gouvernement auquel elle appartient sont des décisions qui sont assez claires sur cette mixité entre nucléaire et énergie renouvelable.
Deux questions et on s'en va. Vous confirmez que l'an prochain, en juin 2022, vous ne présenterez pas comme député?
Oui, je confirme ce que j'avais dit en 2017, d'ailleurs, troisième et dernier mandat. C'est déjà pas mal, trois mandats à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas s'accrocher
dans la vie politique. C'est définitif ou c'est retenez-moi ou...
Non, c'est un engagement clair que j'ai pris et que je réitère.
Oui, vous avez toujours rêvé de naviguer, si j'ai bien compris, d'être marin-pêcheur. Eh bien, ce sera peut-être...
C'est mon rêve d'enfant.
Voilà, peut-être l'occasion de faire votre rêve.
C'est un peu tard pour faire l'école de la marine marchande.
Aider les pêcheurs contre Boris Johnson et peut-être aussi pêcher des homards. Merci d'être venu.
On peut en pêcher sans en manger.
Merci d'être venu, François de Rugy, du pouvoir des homards et surtout l'écologie.
Merci.
Très intéressant. Surtout la partie sur l'écologie.
Merci, bonne journée.
Merci beaucoup Jean-Pierre Alcabache. Merci à vous François de Rugy et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette matinale week-end CNews et Europe 1. La semaine prochaine, d'ici là, profitez bien de votre dimanche. Bonne journée à vous.
La matinale week-end, CNews Europe 1.